Le MAG, avec William sur ses deux ailes.
Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous, à Émilie, Ismaël et Enrique à mes côtés. Merci donc d'être en notre compagnie en ce samedi 21 septembre pour votre émission hebdomadaire, Le MAG. Un format qui sera essentiellement consacré à la 9e édition de la fête d'un jour. Nous serons dans ce cadre en direct depuis le quartier du Plateau, des deux côtés du boulevard Kennedy, à cheval sur Montargis et Chalette. Cette année, eh bien, le rendez-vous se tient de 10h à 17h avec pour fil rouge les jeux à travers le temps et les cultures. On pourra jouer également au son de la fanfare saugrenue qui déambulera pour l'occasion dans tout le quartier. Notons aussi qu'au sein du village associatif, il y aura entre autres les stands du musée Giraudet, de la maison de la forêt ou encore celui du Fab Lab de la fabrique numérique, mais également de la restauration et le traditionnel vide-grenier, sans oublier un concours, celui du plus beau gâteau, sur le thème bien sûr des jeux. Vous l'aurez compris, tour à tour viendront à notre micro quelques protagonistes de cette 9e édition de cette fête d'un jour. Et en tout premier lieu, j'aurai un propos avec Hervé Moplot, directeur des événements culturels de l'AM. Je l'interrogerai sur la programmation de la fête d'un jour qui est, comme indiqué précédemment, sur le thème des jeux. Suivront Régine Littèze, responsable section adulte à la médiathèque de l'AM, et Marie-Emmanuelle Dor. Avec elle, eh bien, nous déclinerons les diverses animations proposées par la médiathèque à l'occasion de ce rendez-vous. Puis ce sera au tour de Philippe Pouy d'Orange Solidarité. Cette association intervient depuis 2 ans au sein de l'association PIMS pour animer des ateliers numériques dont l'objectif est de lutter contre la fracture numérique et l'isolement. En effet, sachez qu'Orange Solidarité s'appuie sur les compétences des salariés du groupe Orange pour accompagner les jeunes sans qualification, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme, tous bénéficiaires des programmes de la Fondation Orange. Elle aide aussi les bénévoles et les bénéficiaires des associations à maîtriser l'usage du numérique en organisant des ateliers de formation dans les locaux d'Orange et dans ceux des associations. Nous en saurons un peu plus avec notre invité sur le sens de cette intervention. Et puis également à notre micro, dans le cadre de cette 9e édition de la fête d'un jour, Catherine Leclarec, elle est présidente de l'association Château de Sable, implantée dans le quartier du Plateau. Pour rappel, cette entité accueille depuis 1993 des enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leurs parents ou d'un adulte familier. Les futurs parents sont aussi accueillis. La structure est un lieu de rencontre, d'échange et de jeu. L'occasion là encore d'en savoir un peu plus sur les champs d'intervention de cette association. Frédéric Pé, directeur du pôle culture de paix à la ville de Chalette, viendra nous parler des actions justement de la commune sur la fête d'un jour, car celle-ci coïncide avec la journée de la paix qui a lieu comme chaque année le 21 septembre. Enfin, notre dernier invité sera Olivier Pasquet. Il est le directeur général de l'OGEM Loiret, un bailleur social qui est fortement impliqué dans le développement social urbain du quartier justement du Plateau. Il sera intéressant donc d'échanger avec lui sur notamment ce quartier qui a connu dans la dernière décennie de profondes mutations. Et peut-être aussi de se projeter, sur les prochaines années en termes d'habitat. Bref, d'évoquer quelques projets structurants pour cette partie du Montargois. Et puis également dans notre émission du jour, Jean-Paul Pigé et ses chroniques santé est derrière chez vous. Aujourd'hui, il sera question du houblon et un focus sur le sphinx du Tilleul, sans oublier les idées sorties en ce week-end du 21 et 22 septembre, présentées par Émilie. Allez, avant d'accueillir nos premiers invités en direct, je vous rappelle, depuis le quartier du Plateau Kennedy pour la 9e édition de la fête d'un jour, une première respiration musicale.
Le MAG sur ses deux ailes.
Eh bien oui, merci Enrique. En effet, nous sommes en direct depuis le quartier du Plateau Kennedy, puisque notre format de ce matin sera essentiellement consacré à la fête d'un jour, 9e édition du nom. Sachez qu'on est ici, donc boulevard Kennedy, à cheval sur Montargis et Chalette. Et cette année, le rendez-vous se tient à partir de 10h jusqu'à 17h, avec pour fil rouge les jeux à travers le temps et les cultures. On pourra jouer également au son de la fanfare saugrenue, qui déambulera notamment un peu partout dans ce quartier. Et notons aussi quelques présences de stands. Cette année, je ne sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas, on peut signaler peut-être la présence du stand du musée Giraudet, de la maison de la forêt, ou encore celui du Fab Lab, de la fabrique numérique. Mais également, bien sûr, on n'oublie pas la restauration qui sera présente ici. Et puis le traditionnel vide-grenier qui a démarré depuis maintenant au moins 1h30, 2h. Sans oublier, bien sûr, un concours, celui du plus beau gâteau, sur le thème des jeux. Vous l'aurez compris, tour à tour vont venir à ce micro, quelques protagonistes de cette 9e édition du nom. Ça tombe bien puisque j'ai à mes côtés Hervé Moplot, directeur des événements culturels de l'AM. Hervé Moplot, bonjour.
Bonjour.
Alors bien sûr, c'est un événement culturel, il faut le rappeler.
Le jeu, c'est éminemment culturel, bien entendu, et donc on est naturellement associé à cette fête pour l'avoir inventé quelque part. Et puis avec l'idée évidemment de travailler avec les gens du quartier. Donc on essaie à chaque fois de trouver un fil conducteur qui puisse correspondre à chacun. Alors c'est pas tout le temps facile, mais le jeu, les animaux l'année dernière, enfin voilà, des choses comme ça qui sont vraiment universelles.
Universelles. Alors on va peut-être rappeler aussi que, certes, si c'est une fête que d'un jour, l'idée c'est de s'impliquer, s'imprégner de ce quartier et de cet espace dans lequel nous sommes là, dans l'espace du PIMS.
L'espace mutualisé d'agglomération, voilà. Oui.
Et ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, il y a eu de grandes mutations depuis 2007 dans ce quartier, et progressivement, c'est accompagné aussi toute une série d'initiatives, dont cette fête d'un jour, qui est préparée avec l'ensemble des services de l'agglo, c'est ça ?
Oui, alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la fête a précédé l'arrivée de l'agglo dans le quartier. Et en fait, c'est à annoncer l'arrivée de l'agglo dans le quartier. Bon, à l'époque, il y avait Excentrique avec nous sur deux éditions, donc la région. Mais toujours est-il que le but était toujours le même, c'est-à-dire que les services publics de l'agglo, parce qu'on est à la limite entre trois communes et que chaque entité communale a du mal à gérer un territoire, ça s'arrête au milieu de la rue. Donc,
c'est vrai.
La police municipale de Châtel, bah, ne peut pas traverser la rue, pour etc. Enfin, bon, vous voyez. Donc l'agglo a vraiment vocation à habiter un espace qui est transfrontalier, pardon, entre les communes. Il n'y a pas de mur ici, il n'y a pas de barbelé. Donc, en réinstallant un service public très varié, très proche des habitants, dans ce quartier, on était vraiment sur la prise en compte de cette réalité. Plus de 4000 habitants qui sont chacun dans une des communes, mais qui, à la limite, le savent pas trop, parce que quand on vit quelque part, on a ses chemins naturels, le commerce le plus près, on se demande pas s'il
est... C'est clair, on peut faire 5 pas et se retrouver d'un côté à Chalette et de l'autre côté à Montargis.
Tout à fait, la boucherie ou la boulangerie et de l'autre côté, bon voilà, y a pas, c'est pas un élément qui est important pour les gens, même si dans la culture du quartier, il y avait quand même ceux qui étaient de la cité, ceux qui étaient de Kennedy, ceux qui étaient de la Pontonne, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui vit autour de ça, mais nous, on voulait transgresser ces choses-là pour arriver à proposer quelque chose de commun aux habitants. Alors, la culture a été un outil de ça. Ensuite, le bâtiment a été inauguré, hein, au cours d'une des fêtes, d'ailleurs, la 3 ou 4e. Et puis maintenant, on bascule vraiment dans le moment où la fête est vraiment co-construite par les habitants. Alors, on peut aller encore plus loin, mais déjà, ça devient assez évident. Ça devient assez évident. C'est-à-dire que nous, notre part de proposition, elle s'est quelque part réduite. Le vide-grenier fonctionne très bien. Les associations qui sont là travaillent sur le quartier et font de ce moment un moment de rencontre avec les gens qui en profitent. Et du coup, on voit bien comment c'est un moment qui est attendu par les habitants, que on arrive à faire travailler les jeunes du quartier sur ce moment. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé autour maintenant de cet établissement ici de l'EMA, où les gens ont chacun trouvé quelque chose à faire avec. Bon, d'autres en parleront mieux que moi parce que moi je suis pas au quotidien ici, mais je pense à mes collègues qui travaillent là, je pense aux associations, le centre social de Lama, je pense à la halte garderie, planning familial, la PMI. Chacun va venir trouver. Il y a aussi l'assistance pour les gens en termes de justice, en termes de
les endroits.
Voilà, en termes de services publics avec Amélis, avec EDF, etc. Les bailleurs sociaux, bien sûr, qui sont prépondérants, hein, puisque dans le quartier, ils disposent de beaucoup de logements. Voilà. Donc ça, c'est devenu vraiment le noyau. Et finalement, la fête qui était autour d'un établissement, elle vient maintenant de l'intérieur de l'établissement. Et de ce qui s'y passe.
D'un prétexte, je dirais d'un prétexte, c'est-à-dire l'instauration de cette maison de service public, eh bien on a essayé au fil des années d'élargir. L'idée c'est aussi d'être un peu la vitrine, vous le disiez à juste titre, Hervé Moplo, d'être aussi la vitrine des forces vives qui composent ce territoire.
Tout à fait. Chaque territoire a besoin de se trouver sa personnalité. Quand on a un quartier comme ça qui a été complètement bouleversé, hein, alors il reste quelques immeubles, mais grosso modo, ça ressemble quand même plus du tout à ce que c'était. La première fois qu'on est venu sur le quartier, il y avait les immeubles derrière. On avait fait un petit truc au milieu d'un immeuble qui n'existe plus, là, pas très loin d'ici, avec des garages, etc. Enfin bon, ça a vraiment beaucoup, beaucoup bougé. Et comment redonner à un quartier, alors effectivement on peut mettre du béton, et je le dis souvent, et du bitume dans tous les sens, c'est pas ça qui donne la personnalité d'un quartier. La fête, oui, c'est un des éléments, c'est pas le seul bien entendu, mais la fête, les services publics, les personnalités des gens qui vont à la rencontre des habitants, tout ça, ça va contribuer à construire une image, à redonner une fierté aux gens qui habitent là. Le quartier a des logements qui sont plutôt sympas. Ça bouge encore, il y a même maintenant une mixité qui s'installe puisqu'il y a aussi de l'accession à la propriété, etc. Il y a un projet urbanistique qui semble pas trop mal réussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc faisons ce qu'il faut autour pour qu'il soit vraiment assumé jusqu'au bout par ceux qui vivent là.
C'est vrai. Et puis celles et ceux qui se rendront aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de venir ici dans ce quartier depuis longtemps, ils vont s'apercevoir que, visiblement, on a donné beaucoup d'air au quartier, puisqu'il y a une partie là qui sera bientôt... rempli d'arbres et de terrains herbeux, peut-être. En tout cas, on voit que les mutations sur ce quartier se poursuivent. Alors, bien sûr, quand on parle de cette fête d'un jour, on parle de cette maison de service public, on parle de celles et ceux qui font vivre le quartier, c'est-à-dire les associations, et puis celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour aider les uns et les autres. Et puis, il y a aussi la dimension culturelle, qui est une dimension, en fait, qui n'est pas... anonyme, qui est intrinsèque, je dirais même, à ce que peut être la conception de la vie sur un quartier comme celui-ci.
Oui, tout à fait. Alors, on a un petit peu révisé notre position sur cet aspect-là pour différentes raisons. Il est évident qu'avec l'appui de la région, on avait moyen, comme avec Olivier Grostet, par exemple, de faire des choses monumentales qui...
Monumentales, on parle parce qu'on a fait des œuvres monumentales.
En carton.
Je me rappelle les cartons, par exemple, bien sûr.
Et donc des choses très visibles. En fait, l'apport culturel dans une fête comme celle-ci, on a essayé de mettre un compteur, de mettre un petit peu de théâtre, des choses comme ça. Ça marche pas, parce que les gens sont de passage, parce qu'il n'y a pas la tranquillité de l'espace public. Il faut vraiment travailler sur des offres qui sont des œuvres de rue. On a eu, l'an dernier, par exemple, on avait la fanfare des oies, ça a super bien marché, c'était très drôle. Donc, on a dû adapter notre proposition. Cette année, c'est une fanfare. Mais je crois que la culture qu'on amène aujourd'hui dans le quartier, c'est plus nous qui l'amenons, finalement, ce sont les habitants. Et pour revenir à la question de départ, c'était comment tout ça se construit. C'est une première réunion qui a lieu au début d'année, je ne sais plus si c'est février ou mars, où on cherche ensemble avec les assos, avec les gens. C'est ouvert, hein, chacun peut venir. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que de temps en temps, on a des gens qui sont sur notre quartier, mais nous, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Mais venez aux réunions, il n'y a pas de problème, pas d'ostracisme. Chaque personne constituée en association ou pas peut venir amener sa pierre à l'édifice. Et à ce moment-là, on décide effectivement du fil conducteur. Avec effectivement cette envie d'avoir quelque chose qui va passer d'une culture à l'autre sans aucun problème. Le jeu, c'est vraiment universel. Tout le monde joue. Et les jeux ont des versions souvent différentes d'un pays à l'autre. Puis il y a des trucs très spécifiques qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est le moment d'échanger autour de tout ça. Et le côté ludique de la fête est extrêmement important. En fait, on n'est pas dans notre offre culturelle en général, mais en particulier sur cette fête, on n'est pas là pour apprendre des choses aux gens, pour dire vous allez voir, on va vous montrer la culture, c'est super, c'est beau, c'est génial. Non, venez vous amuser avec nous, apprenez à vous connaître, échangez, et ça va faire le boulot. Il y a pas de prérequis, il y a pas de diplôme à avoir, il y a pas de contrainte. S'il y a pas l'envie, en fait, nous on a raté notre coup, hein, quoi qu'il arrive.
Bon, en tout cas, ce qu'on va signaler, c'est qu'on va avoir toute une série d'invités dans le cadre de cette fête d'un jour. La dimension du jeu, on va l'appréhender tout à l'heure avec notamment Régine Littèze et puis Marie-Emmanuelle Dor qui vont mettre en perspective les animations qui sont prévues et des animations assez intéressantes. Quand on parle du jeu, par exemple, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va tous se rappeler de la cour d'école, entre autres, et les différents jeux qui rythmaient et animaient les moments où on s'oxygénait, on sortait du cours pour, je sais pas, jouer aux billes, à la barrelle, etc., etc. Bon, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on mettra en perspective, parce que c'est ça aussi, cette fête d'un jour, c'est aussi mettre en perspective aussi ce qu'on a comme possibilité offerte sur ce territoire. Et on sait que les médiathèques à travers l'Agorab, c'est une dimension hyper importante dans un quartier comme celui-ci aussi.
Tout à fait, parce que, évidemment, l'avantage de l'offre des médiathèques de l'Agorab, c'est gratuit. C'est relativement proche puisque on a Montargis, Chalette, Amilly, des points de lecture à Sepoix, Corqui, Vimory, Panne. J'espère ne pas en avoir oublié. Pardon si c'est le cas. et donc chacun peut trouver à proximité de là où il vit une offre. Alors, en plus, on pense bibliothèque, mais ça, alors, il y a toujours des livres, hein, évidemment. Et alors, précipitez-vous, les amoureux de livres, il y en a plusieurs centaines de milliers, mais pas que.
On n'est pas dans la bibliothèque d'antan. Aujourd'hui, non. On s'aperçoit qu'il y a un peu le numérique qui a un peu bousculé et les usages et ce qu'on vient chercher dans une médiathèque aujourd'hui.
Oui, le numérique et puis le jeu. Parce qu'effectivement, Chalette a une ludothèque, il n'y en a pas sur l'agglo, mais sur la médiathèque de l'âme, mais on pratique souvent des animations autour du jeu, très très souvent. Il y en a eu sur le polar il n'y a pas longtemps, sur le cinéma, les quiz, etc. Et donc, c'est une dimension qu'on développe, par exemple par rapport aux jeux vidéo, où on a de plus en plus d'animations autour du jeu vidéo, un vrai travail sur le jeu vidéo. Donc tout ça nous permet de montrer ici à des gens qui sont peut-être pas les premiers à fréquenter notre établissement, nos établissements, de leur montrer que ça existe, que c'est accessible, qu'on leur demande rien. Après, ils peuvent s'inscrire s'ils en ont envie, ils peuvent emprunter s'ils en ont envie, mais c'est pas obligé.
Bon, en plus, on sait que la médiathèque, elle est aussi, je dirais, à l'interconnexion de toute une série de possibilités. Hein. On peut organiser des débats, projeter des pièces de théâtre, faire venir des auteurs. Bon, c'est un lieu ouvert qui permet effectivement, là, de prendre la dimension culture au sens très large du terme.
Oui, ça répond en écho à cette offre de fête. Au travers du jeu dans cette fête, on va pouvoir aller vers différents opérateurs. Alors, les assos ont les mêmes prétentions. Et l'agglo, à travers le musée Giraudet également, qui sera présent, va aussi montrer qu'on est disponible en dehors de ce moment et de ce territoire, pas loin d'ici. Puisqu'une des raisons, les quartiers prioritaires, qu'on appelle comme ça maintenant, ça change de nom constamment, mais peu importe, ils sont toujours là. L'enclavement est hyper important. Je me souviens d'une anecdote, alors je sais pas si c'est encore vrai, mais c'était il y a une vingtaine d'années, au Havre. Les quartiers qui sont en haut de la falaise, ouais, le quartier de la Marouge, les enfants n'avaient jamais vu la mer. C'est environ à 400 mètres. Et ils n'étaient jamais allés à la mer pour 90% d'entre eux. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. On ne va pas simplement proposer des services ici, dans ce bâtiment, aux gens. On va leur dire aussi, mais vous avez accès, comme tout le monde, aux services qui existent sur le territoire. Ils sont en centre-ville, oui, parce que nécessairement, la salle de spectacle, on va pas en installer dans tous les quartiers. C'est chez vous aussi, venez. Et c'est vrai qu'en tout cas, la médiathèque de l'âme, c'est particulièrement vrai. On reçoit beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent éventuellement de ces quartiers parce qu'au travers de leur scolarisation, au lycée en forêt par exemple, ou à Durzy, ils ont l'occasion de venir bosser là, de se retrouver. Et ça, c'est vraiment une grande réussite. Les gens qui visitent notre établissement disent oh là, vous avez beaucoup de jeunes. Alors c'est vrai que ça bouge un peu l'image de la bibliothèque d'antan, ça nécessite aussi de s'organiser parce que des fois, ils font plus de bruit que les déambulateurs, c'est évident, mais on arrive à gérer tout ça et on y travaille et on arrive de mieux en mieux. Puis la plupart du temps, ils y trouvent leur compte et ça c'est bien.
Alors on va s'apercevoir aussi que dans le cadre de cette fête d'un jour, c'est aussi l'occasion de mettre en perspective une fois de plus la réalité de ce qu'est aussi cet outil formidable qui est un poumon au cœur de ce quartier. C'est aussi la solidarité via toute une série d'interventions. Ça peut être la question du droit, la question d'apprendre à faire un CV, etc. etc. Et puis il y a une dimension importante, on en parlait tout à l'heure à travers la médiathèque, c'est la notion de fracture numérique. Tout à l'heure, on va recevoir notamment une association, celle d'Orange Solidarité, qui est assez remarquable, qui vient ici, notamment dans le cadre du PIMS, aider celles et ceux qui sont en mal, je dirais, via les nouvelles technologies, et pour les aider concrètement à appréhender le monde du numérique.
C'est bien qu'une grosse, énorme entreprise comme Orange s'y consacre, elle a des moyens, c'est parfait. Ces offres existent aussi dans le cadre d'associations comme Getting en Transition, par exemple, où nous, on les propose aussi dans les médiathèques, où il y a des espaces publics numériques. Mais il n'y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Il y a tellement de gens qui sont en difficulté, et pas que des gens âgés. contrairement à ce qu'on croit, hein, pas que des gens âgés. Les jeunes ont une pratique tactile, je dirais, du numérique. Hein, ils savent très bien servir de leur smartphone, etc. Mais quand il faut faire un formulaire sur Internet pour prendre sa carte d'identité, etc., déclarer plus tard ses impôts, c'est autre chose.
Même
c'est...
acheter un billet de train, parfois même.
Oui, maintenant, c'est clair qu'au cliché, ça devient compliqué. Donc voilà, il y a vraiment... Oui, tout à fait. Très bien. Orange s'implique. Bon, ils ont des raisons, hein, bien
alors
sûr.
Alors, c'est une fondation qui consacre effectivement une part de ses bénéfices à aider les uns les autres. Ce qu'il faut souligner, c'est que les intervenants, celles et ceux qui viennent ici au PIMS assurer peut-être des cours pour mieux maîtriser les aspects du numérique, c'est des bénévoles, c'est des salariés de cette entreprise qui consacrent une partie de leur temps pour aider les uns les autres. Voilà, c'était juste pour mettre en perspective la réalité de ce que peut être ce lieu. L'idée à travers mon propos et à travers votre propos, Hervé, c'est de mettre, une fois de plus, dans le cadre de cette journée d'un jour, peut-être d'aller à la découverte de ce lieu, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, de ses champs d'intervention. Et puis, l'idée, c'est d'être aussi dans un rapport de fraternité entre les uns et les autres. On vit sur un quartier, on est à peu près 4000. Bon, l'idée, c'est aussi d'être dans un temps festif. C'est un peu la réalité aussi de cette fête.
Oui.
Surtout même.
Et ce lieu, et ça valorise aussi le travail des gens qui sont à l'année dans ce lieu. Ils sont face à des situations parfois pas faciles. Hein, ils offrent aussi la possibilité d'obtenir de mise à disposition de salles pour se réunir, ce qui n'est pas non plus évident dans un quartier comme celui-ci. On n'a pas une masse de fonctionnaires ici qui fait tourner la boutique. Hein, il y a des emplois aidés, il y a quelques fonctionnaires et il y a des associations avec des bénévoles, des salariés. Il y a des gens de passage. Il y a un vrai partenariat entre des gens d'origine qui n'ont pas les mêmes statuts en termes d'emploi ou en termes d'activité et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et c'est à l'image d'une offre assez moderne où l'offre va être protéiforme, va s'adapter en fait aux besoins au fur et à mesure de l'évolution des choses. Il est vrai qu'aujourd'hui, on parlait du numérique, la pression pour utiliser les outils numériques dans tous les gestes quotidiens devient quasiment infernale. Hein. Enfin, moi, ça me gêne pas, mais j'imagine que pour quelqu'un qui sait pas faire, ça devient vraiment terrorisant. Et heureusement qu'il y a des lieux comme ça qui s'emparent rapidement de ces problématiques pour trouver des solutions, à travers Orange, à travers d'autres.
Non, mais c'est vrai que c'est important parce que on s'aperçoit que la non-maîtrise justement des outils numériques fait que c'est un frein considérable au développement des uns et des autres, à son développement personnel et le fait de pouvoir s'affirmer dans une société quand on n'a pas les moyens. Je passe bien sûr la notion de fracture numérique qui là parfois correspond à l'âge, correspond à peut-être le bagage qu'on a personnellement. Et puis après, il y a aussi la possibilité, on est sur un territoire où, heureusement, il n'y a pas de fracture numérique en termes de zone blanche, ce qu'on appelle
et
les zones blanches.
Là, on a la chance, effectivement, d'être bien desservi. Je pense que voilà. La fibre ne va pas tarder à arriver dans le coin, donc ça devrait aller de mieux en mieux de ce point de vue-là. Mais ça ne résout qu'une partie du problème.
Bien
encore
sûr.
Faut-il avoir des machines au bout, encore faut-il
et
avoir
des smartphones qui appréhendent, bien, et... qui appréhendent les machines.
Exactement.
Bon, il y a 7,5 millions quand même de personnes en France qui n'ont pas accès à Internet.
Cela, c'est la question ne se pose pas trop.
Voilà, alors, bien sûr, l'année dernière, il y avait une fanfare qui a animé. Cette année, il y en a encore une. Hein.
Oui, la fanfare de la Saugrenue, ils sont de tour. Là encore, bon, le jeu, la musique, ça marche ensemble. On a aussi là cherché, on a commencé, je me rappelle, la première année, on avait un plateau avec... on avait proposé au groupe du quartier de venir jouer, etc. Bon, ça a été fait, mais il y avait d'abord... Ce nombre de groupes n'était pas venu. En face, il n'y avait pas le public. Bon, c'était compliqué. La fanfare, elle a l'avantage d'aller vers les gens. Et donc, elle va se déambuler sur le vide-grenier, au travers des tentes. Donc, là encore, il faut nous sortir de notre petit confort habituel de dire, bon, là, il y a une scène, on met des artistes dessus, on met des gens en face, blabla, on sait très bien faire, il y a plus en plus de monde, c'est génial. Ouais, sauf que ça marche pas ici. Sur cette fête, ça fonctionne pas comme ça. Et là, on apprend, on sort de notre spectacle de rue. Bon, on n'est pas au sud de la France, on n'est pas dans une habitude d'être dehors tout le temps.
Pas une culture particulière pour ce type de spectacle.
Alors, il faut qu'on se bouge un peu pour se dire, non, attends, stop, arrête ça, le type qui est de faire son spectacle et des gosses courent partout sur la scène, ça marche pas. On avait l'expérience il y a 2 ans de la radio qui avait très très bien marché, radio éphémère. C'était très rigolo parce que ça avait fonctionné et il y avait une attention du public autour de ce mini studio en plein air.
Ouais, parce qu'on était dans le participatif, on était moins spectateur, on devenait un peu acteur.
Oui, parce que en fait on proposait aussi, puisqu'il y avait eu un travail préalable avec les habitants, de rediffuser des choses et de faire intervenir des gens en direct. Là, c'est au travers de la fanfare, on va au devant des gens. Donc, il faut à chaque fois remettre l'ouvrage sur le métier pour pour dire, voilà, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Tous les ans, on se repose des questions, hein, évidemment.
Cela dit, bon, la réussite d'une fête comme celle-ci, on l'a rappelé dans ses fondamentaux, l'idée, c'est pas seulement d'être purement dans le spectacle en tant que tel, d'avoir, de voir, mais c'est aussi d'être dans le relationnel, dans les uns les autres. Je rappelle quand même qu'il y a une trentaine d'associations qui sont présentes ici. Ça prouve qu'on peut aussi découvrir un peu... la particularité d'un quartier comme celui-ci, à travers ses cultures, à travers ses champs d'intervention. Donc c'est ça aussi la réussite peut-être d'une fête d'un jour. C'est-à-dire que c'est pas seulement dû au spectacle qu'il y aurait en tant que tel, mais de gens qui viennent. Et la question qu'on doit se poser, que vous êtes sûrement posé, c'est pourquoi les gens viennent ici lors de la fête d'un jour.
C'est exactement la question. Il est vrai qu'à partir du moment où on fait quelque chose de très spectaculaire, on aura plus de gens qui viendront de l'extérieur. Mais ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite beaucoup de communication, donc des coûts élevés, au détriment peut-être de ce qu'on peut faire directement dans la fête et dans le quartier. Donc le curseur est à régler, hein. Il faut trouver un truc entre les deux, hein, qui fasse que effectivement des gens de l'extérieur du quartier aient envie de venir sur la fête. Et je pense qu'en termes de com, là, on a quand même maintenant mis le paquet sur toute l'agglo pour être présent.
Belle affiche en tout cas.
Ouais, elle est super sympa cette année. Je trouve que mes collègues du... ça a été fait en interne, hein, sur le service com de l'agglo. Et là, chapeau, ouais, on a été séduits par cette affiche. On y a travaillé, mais d'emblée, le projet nous plaisait. Et ça, c'est aussi des choses importantes. Hein. Au fil du temps, on a aussi travaillé sur l'aspect de la fête, hein, ces petites tentes blanches sympas que Amilly nous prête. D'ailleurs, merci la ville d'Amilly. Ça crée une unité. Enfin, on est dans un petit village éphémère, mais qui existe. Ouais, ça se passe pas si mal, tout ça.
Bon, en tout cas, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour ici, du côté de ce quartier Kennedy Plateau, à cheval, entre guillemets, sur les deux villes que sont Montargis.
Tout près de Villemandeur, en plus.
Mais j'ai bien noté que, pour les gens, traverser la rue, c'est pas spécialement se dire « Oh tiens, je suis à Montargis, je suis pas à Chalette ».
Je pense qu'ils savent pas.
Et l'inverse, c'est aussi la même chose. Bon, voilà, une fête qui s'annonce en plus intéressante, puisque
c'est beau,
il va
c'est
faire beau.
Beau.
Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que la fête d'un jour, c'est on alterne une année avec un peu de pluie ou du vent, et puis une autre année avec le soleil. Non, je plaisante.
On essaye d'avoir le soleil à chaque fois, mais ça marche pas à tous les coups, je sais pas pourquoi.
Voilà, en tout cas, c'est jusqu'à 17h ce soir.
Oui.
Bon, n'oubliez pas, il y a différents stands. On va avoir différents interlocuteurs ici à notre micro qui vont mettre en perspective justement leur présence ici sur cette fête d'un jour. On va profiter de la présence justement, tiens, d'Hervé Moplo, directeur des événements culturels de l'AME, puisque j'ai cru comprendre qu'à partir de la semaine prochaine, enfin début octobre, les trois coups vont être lancés pour cette saison.
Le 10 et le 11, premier spectacle de la saison sortie. Oui.
Voilà, et puis j'ai lu dans la presse que bon, ça démarre bien au niveau des réservations.
Alors, chaque année, on vend tellement de places le premier jour qu'on se dit, bon, voilà, on va pas en vendre plus, c'est pas possible, on n'a pas de nouvelle salle, enfin, l'offre, elle est quand même cantonnée au moyen
de... Il y a une jauge.
On a encore vendu plus de 200 places de plus cette année, on est presque 7800 places vendues de 9h à 18h, hein, sur une journée. Quand même un peu de boulot. Ça prouve l'attractivité de notre saison. Ça dit aussi qu'il faut continuer de travailler sur l'ouverture de places supplémentaires parce que on ne peut pas se cantonner aux gens très motivés qui viennent le premier jour. Les spectacles, c'est pour tout le monde. Il y aura des places tout le temps.
C'est vrai.
Donc on y travaille. Malheureusement, cette année, on a quelques spectacles qui sont complets, mais il y en a plein qui ont encore, auxquels on peut encore accéder. Et puis, je vous le dis, parce que personne n'écoute, même pour ceux qui sont complets, n'hésitez pas à tenter votre chance. Si vous n'habitez pas trop loin, du spectacle en général, le Tivoli, la salle des fêtes, ou Jean Villard, etc., le hangar, vous passez. Souvent, il y a des malades, il y a la grippe, tout ça, enfin, des gens qui chopent des trucs. Et il y a des places qu'on vend au dernier moment. Donc, l'an dernier, on a refusé personne les soirs de spectacle. Donc, tentez votre chance. Si vous avez vraiment envie de voir un spectacle, restez pas là parce que c'est dommage. Il y a des places vides dans la salle et vous qui mourriez d'envie d'y participer, vous allez rester chez vous à regarder la télé. Non, venez. Et puis, nous, on va travailler pour que l'an prochain, sur en tout cas les spectacles les plus importants, au lieu de deux, on fera trois séances.
Qu'il faut expliquer. C'est que d'année après année, sur certains spectacles, bon, on a déjà doublé cette année. Hein, on prend en compte effectivement cette réalité où il y a de plus en plus de gens qui décide de venir assister à un spectacle dans le cadre de la saison culturelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, une fois de plus, on pourra pas pousser les murs ni le nombre de places, mais bon, il y a une réflexion, en fait, qui est engagée, qui permettra à un moment ou à un autre de satisfaire toujours plus.
Voilà, elle est double, donc effectivement, en termes de nombre de séances, parce qu'il y a un coût, et puis peut-être en termes d'un équipement nouveau, un jour ou l'autre, qui est nécessaire. Il n'y a pas de théâtre à Montargis, proprement parler, une vraie salle avec une jauge suffisante. Donc ça, ça viendra, mais nous, on doit être prêts à ça. C'est-à-dire que le jour où ça vient, il ne faut pas qu'on ait travaillé sur la jauge d'Ampuchet du Tivoli avec une salle qui fait 2, 3, 4 fois la jauge, et où on sera tout d'un coup tout petit et tout perdu.
C'est vrai.
Donc on anticipe ce moment-là, on ne sait pas quand il arrivera, mais on verra ça. Voilà, il y a des élections qui arrivent, il y aura des programmes, on va savoir un peu ce qui se joue. Il y a des choses qui sont disponibles, il y a des endroits où on peut faire des choses. Donc soyons nous en tout cas là pour dire, vous voyez, il y a du public.
Bon, on fait pas de surbooking, hein, j'ai bien noté au niveau de
la structure.
On essaie d'aider les uns et les autres à faire en sorte qu'ils puissent se retrouver dans le cadre d'un des spectacles. On va rappeler qu'il y a une brochure qui est sortie.
Oui, la brochure est sortie. Disponible sur nos points de vente, donc à l'Aglo, à la médiathèque, dans les médiathèques en général, au hangar également, un peu partout, l'office de tourisme, là aussi.
Et pour les réservations ?
Pour les réservations, ben vous pouvez nous appeler, vous pouvez le faire sur internet, sur le site de l'Aglo, il y a une réservation en ligne possible. Et puis dans ces lieux donc, que je vous indiquais, donc Hangar, Espace Jean Villard, Tivoli, enfin Médiathèque le mercredi et samedi, et l'OT qui est ouvert du lundi au samedi, donc qui est un des endroits les plus faciles pour accéder, tout près du parking.
Bon, puis sachez, pour ce qui nous concerne ici à Radio C2L, on aura l'occasion peut-être avec Hervé ou avec Jacques Drouard, programmateur de la saison culturelle, de remettre en perspective certains spectacles qui vont être des spectacles intéressants et importants pour cette saison 2019-2020.
Oui, il y a des spectacles qui ont moins de notoriété, ou restent des places, donc on viendra en parler effectivement.
Voilà.
Quand vous voulez.
Mais en attendant, on va rester sur la journée.
Si possible.
Voilà, fête d'un jour ici, du côté du quartier Picasso. Non, pas Picasso. Plateau, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je pensais à la peinture, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, Plateau Kennedy, c'est jusqu'à 17h ce soir.
C'est ça.
Venez y faire un tour, il va faire très très beau en plus.
À bientôt.
Merci Hervé Moplot. Donc Hervé Moplot, qui est le directeur des événements culturels de l'âme et qui va être un peu occupé aujourd'hui, je crois.
Oui, c'est sûr.
Merci Hervé. Allez,
merci.
On retrouve notre ami Ismaël du côté des studios. Et puis, d'ici quelques instants, bien sûr, on poursuit notre tour d'horizon de celles et ceux qui font cette fête 2019 d'un jour.
Le MAG sur C2L.
De retour ici depuis le quartier Plateau Kennedy, puisque notre émission est essentiellement consacrée à cette 9e édition de la fête d'un jour. On continue à faire entre guillemets un peu le tour des propriétaires. J'ai à mes côtés Régine Litaise, responsable de la section adulte à la médiathèque de l'AME de Montargis. Régine, bonjour.
Bonjour.
Et elle est accompagnée de Marie-Emmanuelle Dor. Bonjour.
Bonjour.
Qui elle s'occupe de la section jeunesse au sein de la médiathèque de Montargis.
Tout à fait.
Quand on dit jeunesse, on va élargir le propos, hein. Il y a même les bébés. Hein.
Oui.
Vous allez voir pourquoi, parce que j'ai cru comprendre que on va y venir. Vous avez un peu d'intervention ici dans le cadre de cette maison qui nous accueille aujourd'hui, dans le cadre de notre émission. Alors on va décliner avec vous les diverses animations proposées par la médiathèque à l'occasion bien sûr de ce rendez-vous. J'ai cru comprendre que vous allez vous occuper toute la journée, c'est ça ?
Tout à fait, et nous venons pour la troisième ou quatrième année consécutive sur la fête d'un jour.
Voilà, on veut peut-être vous souhaiter un bon anniversaire, vous avez 10 ans toutes les deux, c'est ça ?
C'est ça, il paraît que ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas, ça conserve.
Voilà, et effectivement parce que la médiathèque de Montargis a ouvert ses portes le 20 septembre 2009 pour une journée porte ouverte, et le 22 c'était l'ouverture avec la possibilité d'emprunter des documents, donc nous sommes en plein milieu de cet anniversaire et nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui.
Bon, je vais pas vous demander en termes de stats combien de personnes vous avez accueillies depuis cette décennie, mais bon, on peut considérer qu'on est dans une phase de progression constante en termes de participation.
Tout à fait. Et il faut rappeler peut-être que nous appartenons au réseau Agora,
voilà.
Des bibliothèques et médiathèques de l'agglomération montargoise. Et que cette année, nous avons un autre anniversaire à fêter pour le réseau Agora. C'est aussi la gratuité qui a été installée en septembre dernier.
Ah bah peut-être un petit mot sur cet aspect-là, puisque j'ai pu comprendre que je crois qu'une des premières ici en région, c'était la médiathèque d'Orléans. Je crois, qui avait adopté ce principe de gratuité. Est-ce que ça permet vraiment à ce que les gens enfin poussent la porte et rentre à l'intérieur de ce lieu qui est une médiathèque.
Alors je ne dirais pas enfin, parce qu'il la poussait déjà bien, mais en tout cas ça a favorisé effectivement ce processus, et nous avons de plus en plus d'inscriptions, de personnes qui viennent effectivement pousser la porte pour voir, et nous avons encore des gens au bout d'un an qui ne sont pas au courant que les médiathèques et bibliothèques du réseau Agoram sont gratuites.
Bon, bah, ça tombe bien, puisque vous êtes présente durant cette journée, vous allez pouvoir leur rappeler à la guise aux uns et aux autres que c'est gratuit. Juste peut-être un petit aspect peut-être un peu plus général, il y a encore beaucoup parfois de stéréotypes sur ce lieu qui est une médiathèque. On a le sentiment parfois que c'est pas pour nous, on a du mal à identifier un peu ce lieu. Aujourd'hui, on a un peu désacralisé cette idée que c'est un lieu qui est ouvert vraiment pour tout le monde.
Alors c'est à cela que nous œuvrons à la médiathèque de Montargis, et je pense que les gens qui justement font le pas de venir chez nous, eh ben, reviennent, parce que effectivement.
Oui, parce qu'on propose pas mal d'offres. On propose pas que de la lecture, on propose des ateliers pour les bébés, des ateliers pour les ados, pour les adultes.
Des rencontres.
Des concerts.
C'est aujourd'hui, je disais, c'est parfois un peu l'interface de ce que peut être aujourd'hui la culture. C'est-à-dire qu'on, dans une médiathèque, à la différence, c'est pas péjoratif, une bibliothèque, on vient pas seulement chercher un livre comme c'était ce qui était à l'esprit avant. Oui. Aujourd'hui, c'est un prétexte, ce lieu, à ce qu'il s'ouvre sur toutes les formes d'art, en fait, de la culture.
Oui. D'art, et puis au-delà de l'art, puisque. La médiathèque devient un endroit où les gens viennent aussi pour rencontrer d'autres personnes et trouver du lien social. Et c'est un rôle que nous assumons de plus en plus et de mieux en mieux.
J'aime dire, moi, lieu de rencontre, lieu de culture, où se mélangent et la culture et la rencontre, ou la rencontre et la culture. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que peut-être que vous avez vu aussi la progression à travers vos métiers respectifs. C'est-à-dire qu'on est dans des usages assez innovants aujourd'hui, du fait du numérique et autres. Et aujourd'hui, on est en capacité de proposer des choses vraiment très très diverses.
Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que notre métier est en constante mutation. Nous sommes obligés de nous intéresser à beaucoup de choses, et vraiment nos missions s'élargissent. Mais tout le monde ne le sait pas, donc je voilà. Pense que c'est bien de le
C'est pour
le
ça que
préciser.
Je le rappelle, parce que très souvent on s'aperçoit aussi qu'on vient à la médiathèque dans un objectif qui n'est pas seulement d'aller chercher un livre ou d'écouter sur une plateforme de la musique, c'est aussi être dans l'auto-formation, c'est-à-dire qu'on peut apprendre une langue, peu de gens parfois le savent, pas. On peut aussi s'aider à essayer de remplir un CV, d'apprendre à remplir un CV, de faire peut-être certaines démarches, et puis aussi parfois simplement de lire les magazines ou les périodiques qui peuvent être présentes dans une médiathèque.
C'est ça, et le réseau Agoram offre de multiples possibilités pour justement de l'auto-formation, puisque nous avons des ressources en ligne qui sont proposées, et donc que les gens peuvent consulter chez eux. Donc il y a de l'auto-formation, des livres numériques, donc vous pouvez emprunter également des liseuses dans nos médiathèques et bibliothèques. Vous pouvez écouter de la musique en ligne, du cinéma, de la presse en ligne. Donc l'offre d'Agoram grandit de façon importante.
Pour ce qui concerne Marie et Emmanuel, on s'adresse aux tout-petits. Oui. Vous disiez tout à l'heure, bon jeunesse, mais on s'adresse aux bébés.
Oui, aux bébés.
L'intérêt aujourd'hui pour des parents qui nous écoutent, que leur enfant fréquente ce lieu, c'est-à-dire, est-ce qu'on les aide à percevoir ce que peut être le son, le toucher, toute une série de choses de ce type qui peuvent paraître, au demeurant, on ne parle pas de médecine ou de...
Non.
Comment on appelle ça, de docteurs qui s'occupent des petits, c'est les pédiatres.
Les pédiatres.
C'est-à-dire qu'on leur apprend aussi à appréhender le monde dans lequel on vit.
Aujourd'hui, et puis c'est de la découverte à plein de choses, au toucher, comme vous disiez tout à l'heure, on a des livres tactiles, des livres sonores, donc de la musique, parce que, par exemple, je propose une animation qui s'appelle « Les bébés croque-livres » qui a lieu tous les deux mois. Le premier samedi de chaque mois et le deuxième mercredi de chaque mois. C'est exactement la même séance à chaque fois, mais par exemple, il y a du piano, il peut y avoir de la guitare, du chant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De la lecture, toujours la lecture de toute façon, mais des comptines, enfin des jeux de doigts. Et les enfants adorent comme les parents. J'imagine. Parce que généralement, mes animations sont complètes. Je suis obligée de refuser maintenant.
Et bah voilà, victime de son succès.
Voilà, c'est pour ça qu'on propose deux séances. Et les enfants, bah, je me déplace aussi dans les crèches une fois par mois, généralement. Et c'est pour leur apporter des livres, pour qu'ils aient justement les mots, l'écoute, qu'ils aient aussi le toucher, enfin voilà, l'éveil.
Ce lieu, justement, Marie-Emmanuelle, ne vous est pas inconnu, puisque vous me disiez tout à l'heure en antenne que vous intervenez.
Une fois par mois, je viens à l'halte-garderie de Lama pour les bébés.
Voilà. Alors pour les adultes, parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a mis tout à l'heure en perspective pour contextualiser que l'Agoram, c'est un réseau de bibliothèques. Même quand il n'y a pas de médiathèque, on peut aussi mailler ce territoire en amenant des livres, etc., etc. Le lien qu'il y a justement entre les différentes... Je sais que parfois il y a des opérations où parfois on se croise avec d'autres médiathèques. J'en ai reçu parfois dans mon émission ou parfois dans le cadre du cinéma ou autre. On arrive à travailler ensemble. C'est ça aussi l'intérêt d'être présent ici aujourd'hui. C'est de montrer aussi tout ce panorama qu'on peut mettre à disposition d'une population sur un territoire.
Exactement. Et c'est vrai que c'est là qu'on a trouvé notre présence essentielle sur la fête d'un jour les années précédentes, puisque ça nous permet de rencontrer des gens, des personnes qui ne viennent pas, qui ne nous connaissent pas forcément. Et à chaque fois, c'est vraiment des journées très gratifiantes pour nous.
Vous avez préparé vos questions et vos réponses? Non, je plaisante. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est intéressant le propos qu'on a là, parce que l'idée, c'est vraiment de montrer la spécificité que revêt une médiathèque aujourd'hui, qui c'est très très large. Vraiment très très large, et on n'est plus dans la bibliothèque d'antan. Je regrette pas la bibliothèque d'antan, il faut pas être passéiste, mais dans le même temps, voilà, on a aujourd'hui une forme d'accès à la culture, d'accès au savoir qui est impressionnante. Chacun peut venir en fait compte dans une médiathèque en fonction de ses intérêts.
Tout à fait, voilà. Ses intérêts, ses goûts, on en a pour tout le monde. Et c'est pour ça que le thème de la fête d'un jour aujourd'hui nous convient tout à fait, puisque le jeu, c'est aussi une activité que nous apprécions beaucoup et qu'on a l'habitude de proposer aussi à la médiathèque.
Ah bah ça tombe bien, on va aller jouer avec vous alors. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui dans le cadre de cette fête d'un jour? J'ai vu qu'il y avait, trois thèmes, il y a trois aspects autour du jeu aujourd'hui. Il y en a un qui va peut-être nous rappeler à tous. On a tous été à l'école et on a tous fréquenté notamment des cours d'école.
Oui, c'est les jeux de cours de récréation qui a lieu toute la journée. Donc c'est pour les petits, les grands, cordes à sauter,
bien sûr,
soit l'élastique et les rondes, comme le facteur n'est pas passé, le fermier, voilà, les petites choses qu'on avait dans nos cours d'école avant et qu'on ne retrouve pas forcément ou qu'on peut retrouver avec... Et justement, c'est un partage avec les enfants d'aujourd'hui, pour savoir ce qu'eux font dans les cours de récréation.
Alors, c'est quoi justement l'intérêt? Parce que de remonter le temps, puisque ça a traversé quand même les jeux d'enfance, ça traverse toutes les générations, même si les formes de jeux peuvent être un peu différentes du fait des nouvelles technologies, du numérique et autres. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de remettre en perspective, entre guillemets, ces jeux d'école?
Mais c'est aussi pour montrer que pour jouer, on n'a pas besoin d'avoir un matériel extraordinaire ni coûteux. C'est qu'il suffit d'avoir une corde.
Il faut oublier aussi le portable. Montrer aux enfants qu'il n'y a pas que le portable de papa et maman, et qu'il y a la corde à sauter, qu'il y a l'élastique, les billes.
Vous allez leur expliquer pendant une heure ou une demi-heure, on ne peut pas se passer du portable, c'est ça? Non, je présente. Mais cela dit, ça a une vertu, au moins de montrer. Et puis, est-ce que, à travers cette approche de votre présence ici, dans le cadre de la fête d'un jour, c'est aussi de créer du lien avec l'autre? Parce qu'en général, quand on joue à un jeu dans une cour d'école, on n'est pas tout seul dans son coin. C'est ça?
Oui, on est plusieurs, parce que pour jouer, par exemple, à l'élastique, il faut être minimum deux, voire trois, donc c'est jouer à plusieurs, c'est un partage, et puis c'est apprendre des choses aussi, d'autres choses.
Donc concrètement, toutes les deux, vous avez un stand?
Oui, le stand, il est tout près, là, il est juste derrière.
Et donc, vous avez un espace derrière qui est une cour d'école? Non, je plaisante. Concrètement, on va leur montrer ou leur expliquer les jeux, ou comment ça se passe?
On est là pour leur montrer, oui, et puis faire avec eux aussi, participer, voilà. Et eux aussi peuvent nous montrer des nouvelles choses que nous, on ne connaît pas.
Et ce qui semble important à préciser aussi, c'est que on parle d'enfants, mais toutes nos activités aujourd'hui ne s'adressent pas qu'aux enfants.
Non, rassurez-nous.
Et voilà, et donc si vous voulez venir, vous
d'ailleurs,
pouvez.
Je vais proposer aux deux techniciens que sont Enrique et
Mais ils sont, Ismaël. Ils seront les bienvenus également, bien entendu.
15 minutes d'échauffement avec vos élastiques et cordes à sauter, et puis vous revenez après devant les jurys de la médiathèque, c'est ça.
Hein ?
D'accord. Alors il y a cet aspect-là qui va être décliné aujourd'hui, et puis il y a un autre aspect aussi, c'est où est Charlie ? Qu'est-ce qui se passe avec Charlie ?
Bah, Où est Charlie ? Bah, c'est un album que tout le monde connaît. Nous, en premier, et qu'on retrouve à la médiathèque, et que les enfants adorent. Donc, j'ai pris des albums Où est Charlie, qui sont en accès libre, là, toute la journée, au stand. Et les enfants, comme les parents, peuvent venir, et les grands-parents aussi, peuvent venir retrouver Où est Charlie dans les images de ces albums, sachant que j'ai trois panneaux que j'ai fabriqués, Où est Charlie, pour qu'ils viennent voir en grand et essayer de le trouver.
Donc Charlie, c'est un personnage ?
C'est un personnage, oui.
Bon, on va pas tout dire hein, quand même,
non.
Il faut garder le suspense. Donc l'idée, c'est un casse-tête où on va essayer de trouver un peu, on va faire un peu travailler ses sens.
Voilà, son imagination.
Son observation.
Son observation,
voilà, oui.
Bon, ils vont ressortir d'ici après un jour, ça va être terrible. Et puis, il y a aussi un autre aspect que vous déclinez dans le cadre de cette fête d'un jour, c'est jeu de lettres, jeu de mots. Là, on est dans une part un peu différente.
Alors, un petit peu différente.
C'est-à-dire qu'on peut apprendre les mots.
Non, on ne va pas apprendre. Alors, surtout pas. Surtout pas.
Exprès, je vous pose la question.
Non, faut oublier ce mot-là. On est là pour s'amuser et pour.
Mais on peut apprendre en s'amusant. En fait, c'est un peu l'objectif, ou s'amuser en apprenant.
Peut-être, mais c'est pas l'essentiel. En tout cas, c'est pas notre propos aujourd'hui.
Ok.
Notre propos, c'est de nous amuser et, au contraire, de montrer que avec les lettres et les mots, on peut faire avoir des activités très ludiques. Et pour cette activité, c'est d'autant plus important de préciser que le public qu'on attend, c'est des enfants de 8 ans jusqu'à 110 ans.
Oui, c'est vrai qu'à 77 ans, on est jeune encore.
C'est pas gentil ce que vous dites.
J'ai noté qu'il y avait que 15 000 centenaires hein, dans notre pays. Donc, bon, non, je plaisante. Mais en tout cas, vous avez raison. Maintenant, il ne faut plus dire 77 ans, il faut dire au moins 100 ans. Quoi. C'est ça hein.
C'est ça.
Bon. Donc, j'ai vu aussi sur la plaquette qu'il y a marqué trop sérieux s'abstenir. Donc, c'est vraiment
c'est pour,
dans un aspect ludique.
Oui, et puis, alors, ça, c'est une petite formule qu'on utilise pour toutes les séances de jeu autour des mots qu'on a déjà proposé à la médiathèque, pour vraiment montrer que c'est pas réservé à des initiés ou des gens qui ont l'habitude de manier les mots, absolument pas. Et on a déjà proposé des quiz littéraires, entre guillemets, qu'on présente un peu différemment d'ailleurs maintenant en petit déjeuner littéraire. Ça fait un peu moins sérieux. Petit déj littéraire, c'est moins sérieux.
C'est
Mais
vrai.
Voilà, on est là pour s'amuser. Et si vous venez, parce que vous allez venir nous voir cet après-midi,
bien sûr.
Vous allez participer et vous verrez que c'est très drôle.
Bon, je le dirai à personne hein, que j'irai vraiment incognito, enfin, je suis remarqué. Hein. Bon, dans le même temps, je suis qu'une voix, hein, donc ça va, ça se passe bien. Donc ça, c'est toute la journée.
Oui. Alors...
jeu de lettres et jeu de mots, c'est de
14h30.
Voilà, à 14h30, et on propose une deuxième séance à 16h30. Par contre, Où est Charlie, bien sûr, c'est en accès, donc libre, donc c'est toute la journée, comme les jeux de cours de récréation, c'est toute la journée.
Bon, bah voilà ce que vous peut proposer la médiathèque de Montargis, ça c'est un aspect. Deuxièmement, n'hésitez pas, si vous avez 3 millions de questions, Marie-Emmanuelle et puis vous, Régine, vous êtes disponibles.
Tout à fait.
Voilà, pour répondre aux uns et aux autres. On va rappeler quand même que la médiathèque est ouverte, même si vous n'êtes pas présente physiquement là-bas.
Oui, elle est ouverte sans interruption à partir de 10h jusqu'à 18h aujourd'hui.
Voilà, en ce moment, il y a quelques expos, il y a quelque chose de ce type.
Oui.
Alors, il y a l'exposition de Nathalie Fortier, qui est une auteure, illustratrice et plasticienne, qui est là mois de septembre. Jusqu'en janvier 2020, elle est en résidence chez nous pour des créations d'albums. Pour la jeunesse.
Pour la jeunesse.
Voilà.
Pour la jeunesse et pour les grands aussi.
Et pour les grands, parce qu'elle propose plusieurs ateliers pendant ce trimestre, en fait, pour enfants, mais aussi pour adultes.
Voilà. Alors, on va rappeler aussi, Marie-Emmanuelle, que vous intervenez une fois par mois, ici, dans ce lieu.
Oui.
Pour les tout-petits.
Pour les tout-petits.
Voilà. Les adultes, non ?
Alors, les adultes sont venus parce qu'on a fait un partenariat cet été avec l'AMA.
On a fait l'intergénérationnel.
Voilà.
D'accord.
Où des bénévoles de l'AMA sont venus montrer leurs ateliers à nos adhérents, qui sont d'ailleurs, j'ai cru comprendre que ces adhérents étaient revenus ici pour participer à d'autres ateliers. Donc, c'est super, ça a marché.
C'est l'objectif. Hein.
Voilà.
Moi, j'aimerais ajouter que nous avons une exposition qui a été réalisée par la médiathèque, par l'équipe de la médiathèque, qui est encore présente chez nous jusqu'au 28 septembre et qui s'appelle 1850-1950, un siècle de faits divers en France et dans le Loiret. Donc vous avez encore une semaine pour venir la visiter chez nous.
Très bien.
Et nous avons donc la dernière visite guidée qui aura lieu le dernier jour, samedi prochain à 10h30.
Bon, bah, y a des choses à faire. J'avais juste une petite question d'ordre général. Aujourd'hui, on a le sentiment, vous le disiez, que vos métiers évoluent dans le cadre d'une médiathèque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les usages sont très, très variés, multiples, s'étendent même. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de répondre dans l'individualité de ce que vient chercher quelqu'un à la médiathèque, ou est-ce qu'on essaye de faire en sorte de ne pas trop individualiser justement l'apport qu'on peut avoir dans une... Je ne sais pas si ma question est un peu trop théorique, mais ma question, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire « Mais moi, je veux aller à la médiathèque pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. » Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions dans le sens où... Est-ce que c'est même l'objectif d'une médiathèque, ou l'objectif d'une médiathèque, c'est de répondre au plus grand nombre ?
Oui, c'est répondre au plus grand nombre, mais et en même temps, on essaye de proposer un accueil individualisé et dans la mesure du possible,
à tout le monde.
Dans la mesure du possible, d'essayer de répondre au mieux aux demandes de chacun. Et nous sommes attentifs et attentives à l'accueil que nous réservons à nos usagers.
Voilà, si vous voulez apprendre le chinois ou je ne sais pas quelle langue, vous pouvez, dans le cadre de l'auto-formation peut-être.
Mais tout à fait.
Voilà. C'est un exemple parmi d'autres qui me vient à l'esprit, mais ça veut dire que, y compris parfois sur certaines recherches qu'on peut avoir, tant d'un point de vue personnel ou peut-être d'un point de vue universitaire, là aussi, la médiathèque peut remplir ce rôle.
Oui, c'est en ça que les offres numériques que nous proposons sont vraiment une ouverture extraordinaire.
Voilà, je rappelle que les personnels qui travaillent dans les médiathèques ne sont pas spécialement des formateurs.
Non.
Mais elles sont là pour aider à orienter parfois les gens qui viennent, qui sont en recherche de certaines choses.
C'est cela, et puis ça nous permet d'évoluer chaque jour et puis d'apprendre des choses chaque jour également.
Bon, en tout cas aujourd'hui on va apprendre peut-être à jouer. Un peu plus de choses. On va essayer de retrouver Charlie, on va essayer de mettre les lettres et les mots à l'endroit, ou à l'envers, je ne sais pas.
À l'envers, c'est sympa aussi, mais vous verrez, vous allez venir cet après-midi.
C'est vrai. Et puis bon, entre-temps, bien sûr, on va avec Enrique et Ismaël s'entraîner... À la corde à sauter, dans les jeux
on vous attend,
cours d'école. Voilà. Votre stand, il est situé.
Il est juste en face du PIMS.
En face du PIMS. Donc vous n'avez aucune excuse.
Non.
Voilà. Vous pouvez passer et vous arrêter devant, bien sûr. C'est l'objectif.
Oui, bien sûr. On vous attend.
Eh ben, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Marie-Emmanuelle et Régine. Donc il y en a une qui s'occupe plus particulièrement des anciens. Et puis. Non, je plaisante. Les adultes. Et puis une qui s'occupe des enfants de 0 à.
De 0 à 12 ans. Enfin
zéro,
même.
Zéro, on va dire, quelques mois quand même. Parce que,
bon... Oui, mais bon, c'est 3 mois à la crèche. Donc
c'est vrai,
dès 3 mois, il me voit.
C'est vrai. Juste une dernière petite question que j'avais en tête. Votre relation, justement, médiathèque avec le réseau des établissements scolaires. Parce que là aussi,
il y a un partenariat aussi. Donc, on propose aux enseignants de venir à la médiathèque. On les reçoit tous les jeudis et vendredis matin, généralement. Mais ils peuvent venir en visite libre avec leur classe.
Très bien.
À la médiathèque pendant nos horaires d'ouverture. Et on leur propose aussi des thèmes, des thématiques, comme là, les enseignants sont les bienvenus le 9 octobre à partir de 14h30 à la médiathèque, car tous les services culturels de l'agglo vont leur proposer des animations, des accueils de classe autour de plusieurs thèmes, comme le thème de Nathalie Fortier, justement, comme elle est en résidence.
Voilà. Pour les adultes, non.
Alors, on parlait des enseignants et puis des classes. Donc, les collèges et les lycées sont aussi les bienvenus à la médiathèque.
Oui.
Oh, c'est des adultes, hein, maintenant. Non, je plaisante.
Non, parce qu'on propose quand même pas mal de choses avec les lycéens, surtout.
Bien sûr.
Et les collégiens sur la bande dessinée, ce qu'ils aiment ça. Enfin, voilà. Pas mal de choses.
Bon, en tout cas, je vous invite vraiment, à fréquenter ce lieu qui est la médiathèque. Rentrez, poussez la porte, vous allez voir, ça se passe très très bien. En plus, maintenant, on a aménagé, c'est ça aussi la grande différence avec les bibliothèques d'antan, c'est qu'aujourd'hui, on a des espaces qui sont vraiment aménagés en fonction des besoins des uns et des autres, et des usages, une fois de plus, ou quel que soit son âge aussi, parce que j'imagine que les sièges pour les tout-petits, voilà, ça ne va pas le faire dans la partie adulte.
Non.
Bien noté.
Non, puis... mais il y a des banquettes très confortables chez, chez les enfants qui peuvent tout à fait convenir aux adultes aussi.
Oui. Bon, bah, si vous voulez faire la sieste aussi, il y a un espace sieste. Non, je plaisante.
Quoique, non, mais je propose.
Quoique, je sais qu'il y a certaines personnes qui fréquentent les médiathèques, on leur met un casque sur la tête, on leur met dans un espace assez tranquille et voilà, c'est zénitude.
Et Marie va proposer une sieste
acoustique. Pour les tout petits, les parents.
Sieste acoustique.
Oui. Avec lecture, musique douce, pour que tout le monde vienne dormir. Donc il faut apporter son oreiller, sa couverture.
C'est les mamans qui vont être contentes et les papas aussi.
Ah non, mais le but, c'est qu'ils viennent dormir avec leur enfant.
Ah d'accord, c'est en famille. Donc c'est soit voilà. Ok, j'ai bien noté. Bon, et puis, une fois qu'on a poussé la porte, ou si on doit pousser la porte, on peut peut-être avant venir ici dans le cadre de cette fête d'un jour et puis prendre plus de renseignements auprès de vous.
Exactement.
Voilà, et puis jouer. Sans restriction.
Jouer surtout.
Jouer. Merci à toutes les deux.
Merci à
bon
vous.
Bon courage.
Merci.
Merci.
Allez, on retourne du côté des studios. On retrouve bien sûr Ismaël qui, lui, je ne sais pas s'il joue là-bas. Non, il ne joue pas. Hein. Il n'a pas le droit. Hein. Bon, en tout cas, on le retrouve. Et puis, d'ici quelques instants, on continue à faire le tour du propriétaire, à savoir celles et ceux qui font cette fête d'un jour. C'est jusqu'à 17h ce soir du côté du plateau Kennedy.
Le mag sur C2L.
Eh bien, de retour de nouveau ici, puisque je vous rappelle que notre émission, notre mag, est essentiellement consacrée à la fête d'un jour qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps et qui va les fermer ce soir vers 17h. Toujours donc en direct depuis le quartier du Plateau et Kennedy, bien sûr à cheval sur les deux villes que sont Montargis et Chalette. On va aborder un tout autre aspect, mais qui est un aspect intéressant et qui montre, une fois de plus, à travers les différents intervenants que nous avons eus précédemment, l'intérêt d'une maison dans laquelle nous sommes ici, puisque j'ai à mes côtés Philippe Pouy d'Orange Solidarité. Philippe Pouy, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va juste préciser que cette association intervient depuis 2 ans au sein de l'association PIMS, ici, pour animer des ateliers numériques, dont l'objectif est de lutter contre la fracture numérique et l'isolement. Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent. Bon, Orange Solidarité, on voit bien qu'Orange est l'entité, l'entreprise qui est Orange.
Oui, tout à fait.
Mais Solidarité, c'est une part parfois qu'on ne connaît pas dans le cadre de cette entreprise.
Oui, c'est sûr. En fait, Orange Solidarité est une association qui est menée par la Fondation Orange. Et en fait, cette association a pour but de proposer aux salariés de pouvoir éventuellement montrer toutes les connaissances qu'on peut avoir et les mettre au service d'autres associations. C'est
alors,
ce que je fais
c'est ce
ici,
ici. Alors, on va venir après sur la déclinaison de votre intervention au sein du PIMS. Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, on entend beaucoup parler de fracture numérique. Derrière ces deux mots, fracture numérique, se cachent des choses qui sont le commun des uns et des autres, qui parfois sont même un commun ou une réalité ou un quotidien qui devient peut-être un enfer. De quoi on parle quand on parle de fracture numérique exactement ?
Eh ben, écoutez, aujourd'hui on parle de fracture numérique de par la difficulté qu'ont les gens de faire aujourd'hui une recherche pour avoir un document, pour mettre à jour des papiers, pour s'inscrire au Pôle emploi, pour depuis très très peu de temps, mais faire la déclaration d'impôt directement sur Internet. On parle de fracture numérique aussi parce que pour faire de l'Internet, il faut quand même un matériel qui coûte et c'est pas toujours facile pour certaines populations de pouvoir acheter ce matériel. Donc c'est leur montrer aussi que de temps en temps, ils ont dans les mains des outils qu'ils peuvent utiliser. Ils le savent pas, donc moi je suis là pour leur montrer comment ça fonctionne et surtout essayer de dédramatiser cette situation qui leur fait peur, parce qu'il y a aussi ça qui bouge beaucoup. Et puis la troisième, c'est aussi de faire entrer dans un monde qu'ils ne connaissent pas et qui les isole. C'est parce que le fait de pas savoir utiliser l'outil numérique, alors ça peut être un ordinateur ou ça peut être un smartphone, quelque part on se sent isolé. On a l'impression qu'on fait plus partie de ce qu'on appelle la vie active. Et donc on essaye de le faire. Alors avec des populations complètement différentes, ça peut être des retraités, mais ça peut être aussi des gens qui sont en situation difficile, de difficulté, des gens qui comprennent pas tout à fait le français ou qui sont ici depuis peu de temps, donc doivent faire des démarches et on essaye de les aider pour ça.
Alors effectivement, quand on parle de fracture numérique, si on met l'humain au bout, puisque c'est ça qui est important, on s'aperçoit qu'il y a des sources d'inégalités. Vous le disiez vous-même, le fait de ne pas appréhender ou d'être dans une dans une situation de disparité d'accès aux technologies informatiques, hein, c'est ça en fait, en particulier Internet et au smartphone, même si on peut considérer qu'aujourd'hui on vit dans une société où le smartphone a pris le pas et Internet a pris le pas. Ce qui est assez étonnant, c'est que je regardais certains aspects de disparité, vous le disiez vous-même, à l'instant, en France, l'âge est une donnée importante à prendre en compte dans l'analyse de la fracture numérique. On dit qu'en en effet, 98% des 18-24 ans possèdent un smartphone contre 55% des 60-69 ans. Un adulte sur 5 n'utilise jamais l'outil numérique et ne sait pas l'utiliser, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et il est regrettable, vous le disiez vous-même, de constater que les démarches administratives en ligne ont justement été facilitées pour éviter des déplacements aux personnes âgées. Or, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on est dans un cadre de dématérialisation de plus en plus. Soit on a des plateformes téléphoniques, soit on doit effectivement aller sur Internet pour faire toute une série de démarches, ne serait-ce que même aujourd'hui acheter un billet de train. C'est compliqué aujourd'hui d'aller acheter un train. On a vu dernièrement qu'il y a de moins en moins de gens dans les gares pour vendre les billets de train. Ça, c'est une réalité. Au-delà, sans stéréotyper ou juger les uns et les autres, ça, c'est quand même une réalité qui est assez prégnante et qui... peut-être a été pris en compte dans le cadre de cette association ou cette fondation Orange Solidarité.
Tout à fait. En fait, on s'est aperçu quand on regardait un petit peu, parce que au départ, Orange vend du téléphone. Alors, on vend ce qu'on appelle de la voix et on vend de l'internet. Et on s'est aperçu que moi, par exemple, j'étais confronté à ça juste avant de commencer de travailler avec le PIMS. C'est en fait, on a des gens qui viennent chercher des téléphones, mais en fait, on n'a pas le temps de leur apprendre à s'en servir. Et on s'aperçoit qu'ils ont vraiment entre les mains quelque chose qui pourrait leur rendre service. Mais pour ça, il faut qu'on leur apprenne. Et donc ça n'existe pas. Dans un magasin ou dans un endroit où vous essayez de vous renseigner, personne ne vous propose de vous former. Donc Orange Solidarité s'est proposé d'aider ces gens d'une façon complètement... on va dire autonome, parce qu'en fait, on se sert des connaissances des gens qui travaillent chez nous, et de leur proposer de comprendre, et puis surtout, je reviens sur le côté drame, enfin pas drame, mais de dédramatiser la situation. Beaucoup de gens ont peur d'aller sur Internet, parce qu'on entend à droite, à gauche, oh, c'est dangereux, attention, et tout ça. Il y a des manières de se protéger, mais il y a aussi, il faut savoir qu'il n'y a rien de dangereux. Je veux dire, on n'est pas dans une situation où on est espionné. Non, on peut aller, par exemple, chercher un billet de train. On peut payer en ligne avec son téléphone, sans que pour ça, on se voit pirater sa carte. Donc, on essaye aussi de rendre ça beaucoup plus ludique et d'expliquer. Mais pour ça, il faut passer par l'explication et la découverte. Parce que aujourd'hui, dans mes animations, je commence déjà par m'ont montré et juste expliquer ce que c'est qu'un ordinateur, une souris, un clavier.
En fait, c'est ça que je voulais vous faire entendre dire, c'est que certes, il y a l'aspect d'aller sur des plateformes, mais il y a déjà aussi avant tout d'appréhender ce monde qui est le fait d'avoir un ordinateur avec un clavier, une souris.
Et le meilleur moyen pour leur expliquer, c'est de les faire toucher l'outil. Donc on a ici du matériel qu'ils touchent, qu'ils utilisent, avec plus ou moins de difficultés, bien sûr. Mais c'est ça, c'est de leur montrer ce que c'est qu'une souris, ce que c'est qu'un clavier. Il y a même des gens qui aujourd'hui viennent dans les formations, ne savent pas écrire, lire ou écrire. Donc ils se servent d'un clavier juste en regardant le dessin de la lettre. J'ai 2-3 personnes qui ne savent pas ni lire ni écrire. Donc c'est, moi je trouve déjà que c'est superbe, c'est un superbe moment pour eux. Et puis c'est aussi, j'ai l'impression d'être utile quand je fais ça parce que je montre quelque chose de véritablement concret. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce que je fais. Mais c'est vrai que les gens, au départ, il faut leur montrer ce que c'est, puis les faire toucher du doigt ce que c'est. Pour certains, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir se payer un ordinateur. Donc le PIM, c'est là aussi pour ça. C'est de leur permettre, avec ces formations, de pouvoir manipuler. Et la meilleure des réussites, c'est quand ils ont fini leur formation, de les revoir ici, dans ce lieu où vous êtes aujourd'hui, qui est normalement l'espace numérique du PIMS.
Ah, et voilà, vous portez là ça.
On
rendra les ordinateurs.
Voilà,
à la fin,
exactement.
Vous inquiétez pas.
Et en fait, si vous voulez, les voir taper sur l'ordinateur sans que je sois à côté d'eux, sans que personne ne soit à côté d'eux. Ils tapent avec un doigt, mais c'est pas grave. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de les faire rentrer dans ce monde. Qui est un monde qui, pour eux, était quelque chose, mais à des lustres et à des kilomètres de ce qu'ils connaissaient.
C'est-à-dire que si je vous écoute, on passe du virtuel au réel, c'est ça ?
Ouais. Pratiquement.
Le monde virtuel devient réel.
Quand vous voyez la personne, vous lui demandez juste d'appuyer sur le bouton, c'est comme si il allait avoir quelque chose qui se déclenche, mais d'incertain, d'inconnu pour eux. Et quand ils voient juste que l'écran s'allume, franchement, ça commence à être là quelque chose qui les intéresse. Ils touchent quelque chose qu'on va leur expliquer. C'est ça qui est intéressant.
Alors concrètement, Philippe Puy, donc d'Orange Solidarité, vous intervenez depuis 2 ans ici.
Oui.
On ne va pas revenir à tout ce que vous faites, mais si on avait une approche type de votre champ d'intervention dans le cadre de ce PIMS, là, comment ça se passe? C'est quel jour? Comment vous procédez? Comment vous appréhendez le public que vous avez face à vous?
Alors en fait, c'est vraiment une collaboration avec les gens du PIMS, hein, avec les agents, qui elles font une détection. C'est-à-dire qu'en fait, elles reçoivent tous les jours, c'est leur travail, de recevoir des gens. Et à un moment, elles s'aperçoivent que l'aide qui est demandée pourrait être, on va dire, remplacé par leur propre... Enfin, ils pourraient faire la chose tout seul. Donc, en fait, ils leur proposent un stage, un atelier, en leur disant, est-ce que vous voulez apprendre le numérique? Est-ce que vous voulez vous apprendre à vous servir d'un smartphone? Et donc, ils les inscrivent. On a créé un petit questionnaire pour voir leur niveau. Mmh. Et ensuite, moi, je récupère tout ça. Je téléphone à ces gens. Et je leur propose des ateliers qui durent, en général, entre 5 et 6 semaines, de suite, une fois par semaine, avec un thème. On part sur un thème et on va jusqu'au bout pendant 5 semaines. Et au bout de ces 5 semaines, soit les gens continuent, recommencent ou continuent parce qu'il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, soit reviennent parce que ils ont besoin de conforter, mais c'est à leur choix. Mmh. Et c'est voilà ce que je fais toute la journée avec eux. Donc je le fais, moi, 3 jours. Enfin, ça représente 3 jours dans ma semaine. Et je viens ici. J'ai la chance que le PIMS ait des locaux, donc j'utilise les locaux. On a réussi à avoir un certain nombre de PC qui ont été donnés par le département. Moi, je les ai remis à niveau pour qu'on puisse les utiliser. On vient d'avoir, et c'est tout nouveau, une dotation de la Fondation qui nous a gentiment donné des ordinateurs pour pouvoir les installer ici. Et puis voilà. Et l'intérêt, c'est surtout de mettre le pied à l'étrier de ces gens et qu'ensuite ils utilisent eux-mêmes, parce qu'ils ont les moyens ici, de pouvoir le faire sans être obligés de passer par une...
L'idée, c'est de les amener à d'abord appréhender le numérique en tant que tel, d'une façon très large, très générique, et puis ensuite de les aider à être un peu en position d'autonomie.
Exactement.
Dans l'utilisation de l'outil.
Oui. J'ai un discours à chaque fois quand je les vois, c'est on veut pas, enfin, je veux pas que les gens croient qu'on les abandonne. C'est pas parce qu'on leur demande de faire seul qu'on les abandonne. On leur dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, quand on leur donne cette autonomie, pardon, c'est aussi de récupérer une certaine... on a l'impression d'être dans cette vie active. C'est-à-dire, on n'est pas plus bête que les autres, on est capable de faire ça. Faire un CV, y a des gens, c'est une montagne pour eux. Mettre le nom et le prénom, ça, ils savent. Mais alors, décliner tout ce qu'ils ont fait, ça, c'est difficile. Donc, on les aide là-dedans, mais en leur donnant une certaine autonomie.
Je vous rassure, hein, pour le CV, y a des gens qui maîtrisent très, très bien l'ordinateur et qui ne sont pas au fait de pouvoir faire un CV.
Ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai aussi que leur redonner cette autonomie, ça leur redonne quelque part, et moi ça c'est quelque chose auquel je tiens, c'est que c'est aussi une possibilité de rencontrer d'autres personnes. Parce que on a une population ici qui est une population de plein de d'ethnies, et ce qui est bien, c'est aussi de se rencontrer. C'est un lieu de rencontre, le PIMS aussi. Et ces stages, et ces ateliers, parce que j'appelle pas ça un stage, ces ateliers servent à ça aussi. Vous avez au départ toujours une certaine réticence, vous avez les gens qui se mettent à droite, ceux qui se mettent à gauche, et moi j'essaye de les mélanger, parce qu'il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils travaillent ensemble, et ça c'est très intéressant.
Est-ce que votre intervention permet quelque part d'être dans une forme d'inclusion sociale, c'est ça?
Toute petite expérience, j'espère que j'y participe, oui, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Pour celles et ceux qui nous écoutent, les gens viennent spontanément faire œuvre qui ne savent pas utiliser Internet.
Oui, alors, avec différentes façons de le proposer. Je suis idiot, je sais pas.
Non, je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent.
Ah
qui
oui, effectivement... sans aucun problème. On vient ici.
Pas de jugement de valeur?
Non, aucun.
D'accord.
Aucun. Il y a des gens qui savent allumer un ordinateur, il y en a d'autres qui sont un peu moins, enfin qui savent moins le faire. Il y en a d'autres qui ont l'impression de connaître et connaissent rien. Puis
quel
y a des
est
gens...
le profil justement, Philippe Puy, de celles et ceux qui viennent aujourd'hui dans le cadre de ces ateliers?
tout
sans
âge.
Sans stéréotyper, mais...
Non, tout âge. Il n'y a pas un... Alors, mon travail, malgré tout, c'est d'essayer de détecter les différences. Non pas que je veux les faire des groupes, mais simplement, pour mon animation, je ne veux pas mettre quelqu'un qui sait déjà bien se servir d'un ordinateur à côté de quelqu'un qui découvre qu'il faut appuyer sur le bouton en haut à gauche pour allumer. Ça, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai fait des groupes à ce niveau-là. Mais tout âge, tout niveau, tout... Il n'y a rien. Moi, quand je ne sais pas faire, je vais le dire. Je vais dire non, je ne sais pas faire. Parce que je ne suis pas un informaticien. Hein, au départ, je suis photographe. Hein, donc, ce n'est pas du tout mon travail. Mais j'ai certaines connaissances. Oui, ce n'est pas grave, ça se soigne. Mais c'est vrai que je n'ai pas de connaissances particulières dans l'informatique. Je suis juste un utilisateur averti par mon travail que je faisais avant. Donc, j'essaie
vous
simplement...
Vous avez quand même une certaine expertise de l'appréhension de ce que peut être un ordinateur et ce qu'on peut faire avec un ordinateur.
J'essaie surtout de rendre ça plus...
ludique.
Oui, voilà. On fait des exercices, je leur fais faire des exercices parce que on travaille par exemple sur la création d'une adresse mail. Parce que ça, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire maintenant dans notre ère numérique. Et ensuite, dans la salle, chacun s'envoie des mails. Et par exemple, à l'intérieur, je demande à ce que l'on mette une photo, par exemple, d'un gâteau au chocolat, une recette. Je leur dis après, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous vous apercevez qu'au départ, on m'écoute et on suit mes sujets, mais après, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si l'autre fois, une dame a envoyé, parce que c'était sa spécialité, la recette du couscous, voilà. Et puis, l'autre côté, c'était un gâteau à la banane, et puis voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le côté un peu ludique. On envoie des photos, je leur donne des exercices qu'ils font très bien, et c'est ça qui est intéressant. On les voit arriver apeurés, on les voit ressortir un petit peu plus... on va dire un petit peu plus libre et un petit peu plus en connaissance.
Pour celles et ceux qui seraient dans ce cas de figure et qui nous écoutent,
oui.
Il faut suivre une session, il y a une question de permanence, c'est-à-dire qu'on ne vient pas seulement une fois.
Je prends l'engagement avec eux, je m'engage à rester, à leur faire 5 animations. Donc je leur demande, eux aussi, de prendre un engagement avec moi. Par contre, on n'est pas à l'école. Les gens ont souvent des rendez-vous, les personnes ont des rendez-vous de médicaux. Une personne a un rendez-vous avec la NPE parce qu'on lui propose un stage. Il est clair que tout ça passe avant mon animation. Mais simplement, j'essaye de demander aux gens, voilà, c'est pas je viens.
C'est pas la carte aussi.
Voilà, exactement. Parce que moi, j'ai une organisation quand même. Donc, je fais ça le matin de 9h de 9h30 à 11h30 et puis l'après-midi de 14h à 16h. Donc, quelque part, si vous voulez, il faut une certaine organisation et ça demande aujourd'hui réservation de salle. Donc on demande simplement que les gens le fassent. Mais il n'y a pas de... On n'est pas à l'école, j'ai pas besoin. On prévient et puis tout se passe bien. Mais tout le monde peut venir, n'importe quel niveau, c'est ouvert à tout le monde. Et je fais appel, c'est bien par vous. Il suffit de s'inscrire. Je peux pas
ici
faire...
Au PIMS ?
Oui, au PIMS. Moi ensuite, je recontacte les gens, mais je peux pas faire plus de sessions que, on va dire, 8 à 10 personnes parce que j'ai un problème de matériel. Et puis après, c'est trop compliqué pour que je puisse donner du sens pour tout le monde.
Là, on est dans un cas de figure, à travers vos explications, qu'on peut être, entre guillemets, niveau zéro et venir. Et est-ce que parfois, il peut y avoir des exigences qui sont un peu différentes? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vous solliciter, une fois qu'on maîtrise l'ordinateur, pour d'autres aspects?
Oui,
Exemple, consulter des plateformes pour chercher un emploi?
Alors ça, c'est ce que fait le PIMS, et je participe à... ils font, eux aussi, parce que le PIMS fait aussi des ateliers qui
donc
sont...
C'est un prolongement ?
Oui, c'est un travail même à côté qui est complémentaire, et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'eux faisaient déjà des ateliers, avant que j'arrive, sur comment créer
une lettre de motivation,
créer son propre espace client sur la NPE, sur Pôle emploi, sur Amélie, ou des choses comme ça. Moi, je viens donner un côté technique, un côté, on va dire, oui, technique, entre guillemets, et ensuite, je participe. Donc, en fait, c'est vraiment une interaction entre ce que je fais et ce que fait le PIMS. Donc, ça, c'est possible. On peut faire.
Philippe Pouilly, après 2 ans d'Orange Solidarité ici, là, à intervenir auprès du PIMS, quel bilan vous tirez de cette... Est-ce qu'on a le sentiment que, bon, on n'a pas réglé tous les problèmes,
Non.
Mais au moins, on en a réglé au moins un, c'est-à-dire que cette forme d'inclusion sociale qui permet effectivement de pouvoir s'adresser au monde dans lequel on est, de pouvoir un peu être dans une phase d'autonomie, de se débrouiller un peu tout seul pour engager ensuite des démarches via Internet, Ça, c'est des choses qui restent un bilan positif.
Ah oui, pour moi, c'est très positif. J'ai fait ma carrière professionnelle, c'est pratiquement 55 ans de... Enfin, pas 55 ans, mais 45 ans de commerce. Je vendais du matériel, je vendais des produits. Aujourd'hui, je vends rien, je vends juste... Ouais, je vais pas dire du rêve, mais je suis là pour aider les gens. Et ça, ça me plaît énormément. En plus, ma plus grande des réussites, c'est de voir, même si j'en ai qu'un, c'est voir quelqu'un qui arrive ici dans cette pièce et fait tout seul ce qu'il n'arrivait pas, il n'espérait pas faire, pouvoir faire tout seul. Et oui, c'est une, pour moi une grande réussite, mais c'est personnel ça, c'est très, très personnel. Mais c'est vrai que je suis parti pour... moi, il me reste jusqu'en 2021, parce que normalement, je sors
si
de mécénat.
Écoutez, il vous reste deux ans.
Je reste,
an
mon mécénat se termine normalement de février 2021. Mais il est clair qu'ensuite, à Orange Solidarité, c'est quand même aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, c'est 8000 bénévoles. Donc ça veut dire que même si j'ai fini mon mécénat, je continuerai de travailler en faisant non plus, en n'étant plus payé par Orange, puisque je suis payé par Orange, mais en continuant de faire ce que je fais aujourd'hui, mais en tant que bénévole.
Bon, bah, sur votre retraite, vous organiserez dans votre planning 2 heures pour aller au PIMS, c'est ça en fait?
Oh oui, c'est sûrement ça. Je pense qu'ils vont pas me laisser partir comme ça non plus aussi. Ils sont contents.
Et aussi, voilà. Et aussi d'ailleurs. En résumé, donc c'est intéressant d'avoir ce propos avec vous parce que peut-être que parfois on ne connaît pas tous les champs d'intervention du PIMS. Au moins, c'est une mission parmi d'autres, mais une mission importante. On l'a bien vu dans la mission entre guillemets sociale qu'elle peut avoir, comme c'est d'ailleurs le caractère originel du PIMS. Mm-hmm. On va rappeler, donc vous intervenez tout.
Alors moi, j'interviens les mardis, les mercredis. Et les jeudis, ça c'est les jours de mon animation. Mais par contre, les gens peuvent s'inscrire tous les jours en venant au PIMS ici. Je suis en rapport avec les agents qui sont ici pour pouvoir ensuite recontacter les gens et fabriquer les ateliers.
Donc mardi, mercredi, jeudi,
voilà.
9h30, 11h30.
Voilà, pour le matin.
Et 14h30
14h, 16h pour les après-midi.
Donc on s'inscrit directement ici, via
ici, le PIMS. Et puis moi ensuite, je vois avec les gens, parce que c'est vrai aussi que ce qui se passe de temps en temps, c'est quand vous leur dites, parce que les agents ici, même s'ils les expliquent, ils sont dans une situation où la personne n'est pas ouverte toujours à entendre ce qu'on dit. Donc quand on leur dit que c'est 5 semaines de suite, là des fois ça pose des problèmes. Puis il y a des gens, ils disent, ah ben là je peux pas, parce que j'ai un rendez-vous, je viens de commencer une mission, mais est-ce que vous ferez ça plus tard? Moi je fais des cycles, donc on appelle ça des modules. Là je finis un module qui va se terminer aux alentours du 10 octobre, et j'en recommence un autre entre novembre et décembre. Donc les gens s'inscrivent, il y a une liste de gens, je les contacte, je vois à peu près leur niveau, et je leur propose des animations. Et puis ensuite, c'est ainsi de suite. Tous les à peu près, on va dire tous les 2 mois, je recommence une nouvelle animation d'atelier autour de ces thèmes que je vous ai donnés tout à l'heure.
Donc j'ai bien noté, c'est ouvert à tout le monde?
Tout le monde, sans exception.
Sans exception. Ensuite, quel que soit le niveau, puisque vous déterminez vos groupes en fonction des niveaux des uns et des autres.
Bien sûr.
Pour une meilleure cohérence d'apprentissage, c'est sûr, qu'on va être
bien sûr
avec les mêmes. Vous êtes présent là durant cette fête d'un jour,
oui.
La journée aussi.
Ouais, pas toute la journée, hélas, mais je suis là ce matin, oui, au moins pour travailler avec le PIMS, parce que je me sens prêt.
D'accord. Donc les gens peuvent venir vous voir
bien
ici
sûr,
au PIMS.
Bien sûr, ils peuvent me venir. Alors si on me trouve pas,
le t-shirt orange aussi.
Non,
vous inquiétez pas.
J'ai pas de t-shirt orange. Donc puis je suis aujourd'hui, je suis plus orange, je suis Orange Solidarité. C'est bien différent.
C'est
pour
différent.
Moi.
D'accord.
C'est, voilà.
Bon, voilà. Ben, en tout cas, merci Philippe Pouy d'avoir
aussi
amené votre témoignage de votre champ d'intervention au sein du PIMS ici. Vous pouvez prendre le temps aujourd'hui pour converser avec vous, échanger, et puis autrement, prendre directement contact avec le PIMS pour effectivement essayer d'avancer.
Oui, on vous attend, il n'y a aucun problème.
Voilà, avant il y avait le Minitel 3615, avant il y avait, je ne sais pas, des gros téléphones, maintenant il y a Philippe Pouy ici sur le territoire.
Et en plus, vous pouvez voir, je ne sais pas si, en fait, il y a sur Facebook, ceux qui vont sur Facebook, ceux qui ne savent pas, je leur apprendrai, mais sur Facebook, il y a une page qui s'appelle la page du PIMS, et vous voyez toutes les interventions qui existent, à la fois pour le PIMS et à la fois par moi, donc vous verrez, il y a une petite vidéo qui vous explique aussi ce qu'on fait avec le PIMS.
Bon, voilà.
Donc allez faire un tour sur la page Facebook. Voilà.
Du PIMS. Bon, merci en tout cas, Philippe Pouy.
Merci à vous.
Et puis raccrochez quand vous pouvez. Hein.
Oui.
C'est ça. D'accord. Allez, on retrouve du côté des studios avec Ismaël. Et puis d'ici quelques instants, Enrique, il est devant son ordinateur, il est consciencieux. Je ne sais pas quel niveau il est encore, il cherche encore. Bon, enfin, on retrouve Ismaël et puis d'ici quelques instants, d'autres invités depuis cette fête d'un jour, ici au quartier Kennedy Plateau, à cheval, je répète, sur les deux villes que sont Montargis et Chalette.
Le MAG sur ses deux ailes.
Eh bien, merci Ismaël, de retour comme convenu ici du côté de cette 9e édition de la fête d'un jour entre ces deux quartiers que sont notamment Kennedy Plateau, entre ces deux villes, d'un côté comme de l'autre, Montargis et Chalette. Mais on a vu avec nos autres invités qu'il n'y a pas d'opposition, on peut traverser la rue sans problème et il n'y a pas besoin d'autorisation particulière pour franchir une ville à une autre. Eh bien, également à notre micro, dans le cadre de cette 9e édition de la fête d'un jour, Catherine Lecloarec, elle est présidente de l'association Château de Sable. Catherine Lecloarec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés. Alors, j'ai vu que vous êtes implantée dans ce quartier, justement, du plateau.
Oui.
Vous êtes chez vous, ici.
C'était une volonté de départ de s'implanter dans ce quartier.
Voilà, depuis 1993.
Alors, le lieu a ouvert en 1993. L'association a été créée en 90.
Ah oui.
Voilà. Et donc, pendant 3 ans, on a travaillé à créer le lieu, un lieu d'accueil enfants-parents. Alors, effectivement ouvert en 93.
Alors justement, vous avez dû voir un peu de changement, puisqu'en 2007, je veux comprendre qu'on avait un peu cassé les murs, avait changé un peu choses ici. Et puis cette structure dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce que par exemple c'est un lieu qui vous est un lieu commun ou pas du tout ?
Non, c'est pas commun à notre association, mais on travaille
quand même en
collaboration.
Vous passez devant et vous arrêtez, c'est ça ?
Et puis on a effectivement le LAMA qui est membre fondateur du lieu d'accueil enfants-parents, donc on a un lien étroit.
Alors, j'ai vu que l'idée, c'est d'accueillir des enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte familier, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Est-ce qu'on est dans la thématique ou la problématique qui est un concept assez contemporain, à savoir la parentalité ? Est-ce
oui,
qu'on est en plein dans
ça.
Ce champ-là ou pas ?
Oui, on peut dire ça, puisque c'est un espace d'accueil, d'écoute, d'échange. On accueille les parents et leurs enfants. Donc âgés de moins de 4 ans. Et effectivement, l'idée, c'est de soutenir la relation enfant-parent, d'accompagner, de... Peut-être ce que je pourrais dire, c'est qu'on travaille aux fondations un peu. Quand on construit une maison, avant de mettre les murs, on fait des fondations. Et peut-être que nous, on est à ce moment-là, on intervient de manière très précoce, de manière à ce que les enfants se développent et grandissent le mieux possible pour ensuite avoir une place dans la société qui soit... Voilà.
C'est vrai. Alors on a tous... Allez-y, excusez-moi.
Non, et du coup, effectivement, c'est l'idée, c'est de soutenir les parents dans les tout premiers moments, puisqu'on accueille les bébés, parfois, à la sortie de la maternité.
Alors l'idée, c'est pas de mettre en perspective, des maîtres à penser, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être dans la logique qui a présidé à la création de cette association, un personnage important, une femme importante, qui a été Françoise Dolto. Est-ce qu'on est un peu dans cette veine-là, c'est-à-dire
oui,
dans
oui,
cette approche ?
On s'est inspiré de Françoise Dolto.
C'est pas grave, elle n'avait pas de droit d'auteur.
Et de la Maison Verte, effectivement, pour nous, on se dit un bébé de la Maison Verte, effectivement.
Quel était justement, Catherine, le postulat de départ ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu un aspect particulier qui a présidé une fois de plus à la création de cette association ? Le fait qu'on vit dans une société où le rapport entre les parents et les enfants sont compliqués ? Le fait d'être parent aujourd'hui dans une société où on a une société éclatée, où les familles monoparentales, je ne les stéréotype pas, mais sont plus présentes qu'il y a une certaine période de notre histoire. Est-ce que le fait de la situation sociale fait que le rapport entre les uns et les autres est compliqué ? Est-ce que le fait même d'être parent aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile ? C'est tout ça qui a fait qu'on crée cette association ?
Alors initialement, c'était un groupe de travailleurs médico-sociaux de locaux qui avaient fait le constat que sur ce quartier, il n'existait rien pour la petite enfance. Donc il y a eu d'abord une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et puis il y a un petit groupe qui s'est détaché avec l'idée de créer un lieu d'accueil enfants-parents. Parce qu'effectivement, on pense que... il y a une nécessité d'aider au lien d'attachement de manière très précoce pour ensuite effectivement affronter la société telle qu'elle est et rentrer à l'école, aller à la crèche, et que se séparer, c'est pas simple, c'est inhérent à la vie humaine, et que du coup on se disait qu'on avait envie de contribuer un peu à ce que ça se passe le moins douloureusement possible.
Alors on sait qu'on vit dans une société où il y a un rapport notamment à l'enfant compliqué, parfois dans le relationnel avec le papa ou la maman. L'idée c'est qu'on n'est pas à la place de certains professionnels qui interviennent dans ce champ-là, qui peuvent être des psychologues ou autres.
Oui.
Vous vous situez comment ?
Alors nous on est quand même, enfin les accueillants qui interviennent dans le lieu sont des professionnels de la relation, de la famille, de l'enfance. Donc l'accueil se fait par des professionnels. Mais effectivement, ce n'est pas un lieu thérapeutique à vocation thérapeutique, ni un lieu... On ne se substitue pas à ce qui existe déjà. C'est vraiment pour intervenir de manière préventive, en fait. Françoise Dolto, elle avait constaté dans ses lieux de consultation que les troubles de la relation... que les enfants étaient en souffrance et que c'était souvent lié à des troubles de la relation. Et du coup, elle s'était dit qu'il fallait intervenir avant que les enfants soient peut-être obligés de consulter. Et du coup, nous, on est un petit peu dans cette démarche-là aussi, c'est-à-dire d'intervenir de manière précoce au moment où l'enfant arrive et avec tout ce que ça bouleverse au sein d'une famille, l'accueil d'un enfant.
On n'est pas dans un rôle, entre guillemets, peut-être que je vais dire un gros mot, de médiation, pas du tout.
Ça
si parfois on a une situation conflictuelle, par exemple, est-ce que...
Oui, si, ça peut, de médiation, de traduction aussi, de mise en mots, beaucoup de mise en mots, c'est-à-dire qu'on va mettre des mots sur ce qui se passe à l'enfant, à son parent. Puis c'est un lieu d'accueil collectif aussi, puisqu'il y a plusieurs enfants, plusieurs parents, et l'idée c'est de favoriser la parole.
Alors
parce que la parole circule.
Vous dites collectif, par exemple, là on est dans un domaine qui peut être un peu sacralisé, un peu intime. Est-ce que c'est facile pour des parents de venir vous voir ?
Alors peut-être c'est pas facile au départ de pousser la porte, mais une fois qu'on a poussé la porte, les gens...
On ressort plus.
Les gens disent qu'ils s'y sentent bien. Et ce qu'on remarque, c'est que par exemple, il y a des gens qui font connaissance dans le lieu, qui deviennent parfois amis à l'extérieur, qui se voient à l'extérieur, qui continuent de venir au Château de Sable. Donc c'est parce qu'ils y trouvent quelque chose... De plus, peut-être. Et aussi, il y a une mixité dans ce lieu. C'est-à-dire qu'on est donc implanté dans ce quartier du plateau. Donc il y a des familles de ce quartier, mais il y a des familles qui viennent de l'agglomération, hors agglomération, qui cherchent un lieu comme celui-ci et qui se croisent dans ce lieu, alors que peut-être ils ne se croiseraient pas dans la vie de tous les jours. Et il y a une mixité qui nous paraît... vraiment intéressante, justement, en lien avec la société telle qu'elle est actuellement.
Alors justement, j'ai retenu un mot, c'est croiser.
Oui, oui.
On croise des expériences, on croise la réalité de ce qu'on peut vivre.
Oui, oui, c'est ça.
Je vais vous donner cet exemple, pour être précis. Il y a ici, à Chalette, ce que la mairie avait mis en place, la pause café, où les mamans viennent. Se disait au demeurant, mon fils est insupportable à l'école, j'ai un rapport avec lui à la maison terrible, j'ai le sentiment d'être la seule au monde à vivre cette situation-là. Le fait de la confronter à d'autres permet de dépassionner entre guillemets un peu les choses et surtout de ne pas être dans une situation ou dans une posture où on se culpabilise. C'est aussi un peu ça dans ce champ-là.
Oui, c'est l'idée aussi d'échanger, de partager... les expériences, de partager son vécu autour de ce point commun qu'est la parentalité. Effectivement, le fait d'être parent d'un petit, et du coup, il est question de la naissance, de ce que c'est qu'être un parent, de la maternité, de la séparation, des premiers pas, de la première entrée dans un lieu social, enfin... effectivement, les parents échangent entre eux sur ce qui se passe avec
En vous écoutant, je me disais, en regardant un peu, pour préparer ce petit sujet, pourquoi 4 ans ? C'est un âge critique ?
Non, enfin...
Je fais esprit de vous provoquer,
mais c'est 3 ans, en fait. Mais du coup, jusqu'au 4e anniversaire, l'idée, c'est avant l'entrée à l'école, finalement.
Bon, maintenant, ils vont tous rentrer à 3 ans, normalement, si tout se passe bien.
Il y en a qui rentrent à 2 ans, je ne sais pas si je peux me permettre de donner mon avis.
Vous pouvez vous lâcher.
Moi, je ne suis pas forcément pour ça, parce que je pense qu'il faut que les enfants ils soient déjà bien attachés, qu'ils soient déjà bien coucounés pendant un certain temps avant de les lancer dans dans la vie collective, dans l'école. Bon, moi je pense qu'on apprend bien si on a été, si les fondations justement dont je parlais tout à l'heure, elles sont solides. Et ça, c'est ça qui permet de bien apprendre après.
C'est
pas forcément d'entrer à l'école très tôt. Après, bon.
Bon, après il y a aussi l'aspect de socialisation. Qui n'est pas inintéressant. C'est-à-dire, parfois, on peut être un enfant tout seul avec le papa ou la maman. Mmh. Et le fait de se retrouver aussi avec d'autres fait que, bon, on appréhende le monde peut-être parfois un peu différemment. Je ne dis pas que c'est la clé, hein, mais c'est...
Mais du coup, le Château de Sable est un lieu de socialisation, justement, parce que ça permet à ce que l'enfant soit avec d'autres enfants tout en étant rassuré par la présence de l'adulte qu'il connaît bien. Et du coup, par exemple, on est en lien avec la halte garderie qui est dans ses locaux. Et parfois, quand... effectivement, la responsable, elle accueille un nouvel enfant et qui a une grosse problématique de séparation, elle conseille aller au Château de Sable quelques temps pour préparer, parce que du coup, les choses, elles se font un peu en douceur. C'est-à-dire qu'on a en plus un local avec plusieurs pièces, donc l'enfant commence à s'éloigner. Au départ, la maman, elle suit, puis après, petit à petit, elle peut rester dans une pièce alors que l'enfant est dans l'autre pièce.
Pas lutter contre l'instinct maternel, dans ce cas.
Et ça se fait de manière plus naturelle, plus douce que d'arriver du jour au lendemain, de se retrouver à l'école, par exemple. Mais bon, après, on y contribue. Après, c'est pas un passage obligé non plus.
Non, j'ai bien compris. D'ailleurs, comment vous travaillez au quotidien? C'est-à-dire que des papas ou des mamans viennent vous voir. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que c'est que des mamans ou il y a aussi des papas?
Non, il y a aussi des papas. Alors, il y a une majorité de mamans.
J'imagine.
Il y a des papas, il peut y avoir des assistantes maternelles, il peut y avoir des grands-mères. Il suffit que l'enfant soit accompagné par un adulte qui le connaît bien.
Mais est-ce qu'il y a un postulat de départ? C'est-à-dire qu'on vient vous voir, on vous dit non, il y a des choses qui ne vont pas avec mon enfant,
Pas du tout.
Je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent.
Oui. On va à la ludothèque, à la bibliothèque, va dans ce lieu, on vient sur le temps d'ouverture, on reste le temps qu'on veut, on vient au moment où on veut, on reste 5 minutes, 2 heures, 4 heures, il n'y a pas d'inscription préalable, et l'idée c'est nous on ne pose pas forcément de questions, on accueille ce qui vient.
C'est un groupe de parole dans le sens où on libère peut-être...
Oui, parfois, parfois c'est silencieux aussi.
Ah, d'accord.
Parfois ça peut être silencieux, c'est-à-dire que l'idée c'est de vivre un moment dans ce lieu.
C'est les parents qui sont acteurs de ces groupes de parole, d'échange.
C'est ça, et les accueillantes, elles sont disponibles pour accueillir ce qui vient à ce moment-là.
Et quand vous, on ne va pas tout déflorer, mais quand vous entendez certaines choses, vous avez une intervention qui est là pour leur dire « non, on peut peut-être faire comme ça » ou peut-être pas du tout.
On ne va pas forcément être directive, mais on va essayer de soutenir la réflexion autour de ce qui vient de se dire et de donner effectivement un point de vue ou... on essaie d'amener la réflexion.
Voilà, mon idée c'est de pour être clair, de dire on n'est pas seulement dans le constat de ce qu'on peut, chacun peut vivre, mais on est aussi là dans le cadre du collectif à essayer peut-être à un moment ou à un autre de trouver quelques clés, quelques solutions.
Oui,
même si on n'a effectivement pas la vérité vraie, j'ai bien noté.
Oui.
Est-ce que parfois aussi ça permet de, à travers ces groupes de parole, de renvoyer vers d'autres, je ne sais pas comment on peut dire, d'autres services ou d'autres personnes
On peut être amené à répondre à des questions et à des questions d'orientation, du coup, et à dire peut-être que dans cet endroit-là, on peut vous aider sur ce...
Parce que quand je vous écoute, je me dis, ça existe un peu dans beaucoup de villes en France, il y a ce qu'on appelle des entités qui sont dans des quartiers, par exemple, qu'on appelle des maisons des familles. Où les mamans viennent. Il y a toute une série d'activités qui sont déclinées, qui ne sont pas seulement que des groupes de parole, qui peuvent être... Parfois, c'est aussi des temps où ça permet au moment de souffler un peu, de laisser leur enfant faire d'autres choses avec d'autres, ou des animateurs et autres. Est-ce que l'idée de ce lieu est, sans les juger, sans stéréotyper, d'essayer de faire en sorte qu'elles arrivent à être dans un confort dans la relation qu'elles peuvent avoir avec leur enfant, c'est ça un peu la construction?
Oui, c'est ça, elles peuvent se poser un moment sans laisser l'enfant, effectivement. Nous, on n'organise pas d'activité précise. Après, c'est un lieu qui est aménagé pour accueillir des petits, donc il y a des jouets, c'est à disposition. On ne va pas organiser une activité, on permet que le parent puisse se poser, échanger éventuellement avec d'autres adultes, parler de ce qui peut l'inquiéter de son enfant, ou de ce qui ne l'inquiète pas aussi, hein, de son de l'évolution
non,
de l'enfant.
Non, après, on n'est pas que dans le négatif, peut-être,
j'ai bien noté. Ouais. Et avec des accueillantes qui sont disponibles et à l'écoute de la relation.
Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des intervenants, des intervenantes, sur une problématique ou une thématique particulière?
Non. Non,
pas
non, on est juste le lieu d'accueil.
Le lieu d'accueil.
Et qui, oui, oui, oui.
D'accord. Et combien vous êtes? Comment vous fonctionnez, en fait?
Alors, en fait, actuellement, l'équipe est constituée de 5 accueillantes. Elles sont 2 à chaque accueil. Elles sont d'accord. Toujours forcément 2. Donc, elles tournent sur les 3 accueils hebdomadaires, puisqu'on est ouvert le lundi matin de 9h à midi, le mardi et jeudi après-midi de 14h à 18h. Donc, il y a 2 accueillantes qui sont présentes. Et qui accueille les familles qui se présentent. Donc c'est la surprise à chaque fois, puisqu'il n'y a pas, on ne sait pas qui va venir, combien de personnes vont venir, si ce sera des gens qu'on a déjà vus ou des nouveaux.
C'est open bar, en fait.
Voilà. Il y a des nouveaux régulièrement. Enfin, chaque année, on renouvelle de 50% le nombre, les enfants accueillis. Donc constamment, parce que constamment, il y a des enfants qui deviennent trop grands.
Bien sûr. Donc ils sont exclus.
Donc constamment. Non, constamment, il y a des nouveaux qui arrivent.
D'accord.
Donc, voilà.
Et vous êtes depuis l'origine
de... Oui, quasiment, oui, voilà. Oui, depuis 91.
Voilà, en plus de 25 ans. Quel bilan vous tirez de ces rencontres, de ces échanges? Est-ce qu'on a le sentiment d'être là pour aider au niveau où on peut être, si modestement soit-il, les uns et les autres, à comprendre un peu la réalité de ce qu'est être parent, de les aider à prendre en compte leur rôle, parce que c'est ça aussi, parfois, très souvent, il y a des enfants, des parents qui ont encore du mal à assumer le fait d'être, enfin pas assumer, mais d'être dans le statut de parent.
Oui, après, moi j'ai quand même envie de dire que c'est aussi un lieu ouvert, même si, enfin, comment dire, c'est pas que en lien avec de la difficulté. C'est de toute façon difficile d'être parent,
quelle que soit sa situation, économique,
ça pose forcément des questions. Donc, je sais pas, le bilan, ce serait que, effectivement, ça reste justement un lieu un peu de liberté pour pouvoir poser des questions sans avoir de compte à rendre, et ça fonctionne. Enfin,
c'est peut-être ça qui fait peut-être l'originalité ou la singularité peut-être de votre association.
Peut-être, oui. Parce
que, vous avez vu, j'ai essayé de tenter d'expliquer qu'on est dans un cadre, qu'on peut... Je parle de différentes initiatives qui se font ça et là sur le territoire national. Non, c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on vient, on n'a pas de contraintes.
C'est ça, il n'y a pas d'inscription, c'est anonyme. Ce qui se vit dans ce lieu, ça reste dans ce lieu,
et
c'est un moment de vie, en
moment
fait.
De vie.
Ouais. Bon. Un moment de vie.
Tranche de vie. Mm. Oui, parce que, bon, c'est pas à vous que je l'apprends, cette fameuse maxime qui dit on devient pas parent, on l'apprend, c'est ça? En fait, c'est ça le...
On ne naît pas parent, on le devient.
On devient, oui.
Ah, c'est ça.
Oui, ouais, c'est ça, en fait. Moi, je l'ai revisité à ma sauce, mais en fait, c'est ça le postulat.
Oui.
Et qu'à partir de là, effectivement, quelle que soit la catégorie sociale, quel que soit le niveau d'études ou autre qu'on a, ou le nombre d'enfants
c'est
qu'on
ça.
A, le rapport à l'enfant est dans
et
le
puis
statut
que
de parent.
Quand on devient parent, ça remet un peu en mouvement aussi l'enfant qu'on a été, les parents qu'on a eus, et du coup l'accueil d'un enfant. C'est aussi l'idée que l'enfant est un être de pensée dès sa venue au monde, et qu'il faut qu'on s'adresse à lui dès sa venue au monde.
Oui, et que l'être humain, c'est pas une science exacte, et que c'est ça qui fait parfois la richesse et parfois le malheur de la société dans laquelle on vit, c'est ça, non?
Oui, et puis qu'effectivement, la colonne vertébrale d'un être humain, c'est la manière dont il est en lien avec les premières personnes qui l'accueillent, à savoir la plupart du temps ses parents. Donc c'est sa colonne vertébrale, après c'est ça qui va le maintenir debout, le fait d'être en lien, et de comment il est en lien avec...
Catherine, comment vous, personnellement, vous êtes venue sur la création de cette association? Est-ce que c'est un parcours particulier? Est-ce que c'est peut-être que vous avez été... avec des enfants et vous vous êtes posé des questions?
J'étais toute jeune, en fait. J'étais un tout petit bébé quand je suis venue au Château de Sable. J'avais une vingtaine d'années, en fait.
Ah oui?
Et j'avais envie d'être, de m'impliquer dans une maison verte, parce que j'avais entendu parler de Françoise Dolto dans le cadre de mes études, et du coup ça m'avait intéressée. Et donc quand je suis revenue après mes études supérieures sur le Gâtinais, et que j'ai su qu'il y avait une association comme celle-là qui était en train de naître, j'ai dit
faut pousser ses premiers cris.
Voilà. J'ai dit faut que j'en sois.
Je vais continuer à donner le biberon, non ?
Faut que j'en sois. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'association, avec parce que c'est une problématique qui me parle effectivement et qui me questionne.
Bon, bah, je vois que vous êtes une passionnée, et la passion entraîne l'action très souvent. Donc on voit que c'est pas inintéressant. Pour celles et ceux qui nous écoutent, et notamment les mamans qui seraient confrontés à certaines questions, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ?
Ben venez, venez au château de Sable.
Poussez la porte.
Poussez la porte au 9 rue Édouard Lalot à Chalette.
9 rue Édouard Lalot,
c'est à côté du Super U.
D'accord, mais il y en a plein des magasins ici. Hein,
ouais, le Super U de Chalette, et on est sur la petite place ronde dans le quartier. Là.
D'accord, et on peut les accueillir donc
le lundi de 9h à midi, et le mardi et le jeudi de 14h à 18h. Donc il suffit de pousser la porte. On peut venir une première fois pour visiter. On n'est pas obligé de rester, on peut juste visiter. Et puis si on s'y sent bien, on reste. Si on préfère repartir, on peut repartir. Il n'y a pas de souci. La seule chose qu'on demande, c'est le prénom de l'enfant pour pouvoir s'adresser à lui.
Oui, bien sûr.
Et puis le lien de la personne qui l'accompagne, c'est sa maman, son papa, etc. Et c'est la seule chose qu'on inscrit sur un tableau pour dire qu'un tel est là aujourd'hui, pour signifier la présence de ceux qui sont là. Bon. Et puis c'est tout. Puis c'est un tableau qu'on efface chaque soir.
Non, j'ai bien compris qu'il fallait pas, il n'y avait pas de carnet de correspondance.
Non,
j'ai bien noté. Est-ce que parfois ça amène, vous le disiez vous-même, il y a des gens parfois qui peuvent vivre dans un quartier et se croiser sans jamais se parler. Là, ça peut être une occasion de rapprocher parfois des moments. Est-ce que ça a amené parfois d'autres aspects où des moments s'impliquent à travers l'échange qu'elles ont eu dans d'autres activités, je ne sais pas. Non, pas du tout.
Je ne sais pas trop.
Après, elles sont bonnes, vous ne savez pas.
Alors, moi, je ne suis plus accueillante actuellement, donc je n'ai plus trop de...
Vous n'êtes plus accueillante ?
Je suis plus accueillante dans le lieu.
D'accord. J'ai bien noté.
Et du coup, mais je peut-être, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, j'ai bien noté que c'est un temps d'échange. Il n'y a aucune obligation, aucune contrainte. On ne juge pas les uns et les autres. Ce qui est assez intéressant dans la démarche, c'est qu'on vient, on explique aux autres dans le cadre d'un groupe de parole.
Ouais, ou pas. Hein. Ou pas. On peut aussi...
Voilà, on peut juste venir écouter.
On peut juste venir... parce qu'en plus, il y a plusieurs pièces, donc on s'installe où on veut. On peut rester avec son bébé si on veut. On peut... Enfin, c'est... Il n'y a aucune... comment dire... c'est comme si on va au jardin public, donc, sauf que c'est un jardin public un peu organisé, avec des professionnels qui sont là quand même pour soutenir.
Bien sûr, je vais noter.
Si un jour on n'a pas envie de parler avec les autres, on n'est pas obligé de parler avec les autres.
Ah, ça change, hein, parce qu'il y a des fois on n'a pas envie de parler, on est obligé de parler. Non, je plaisante. Bon, on va rappeler donc cette association Château de Sable, qui est située au
9 rue Édouard Lalot,
qu'on peut y venir et pousser la porte le lundi.
Lundi de 9h à midi, mardi et jeudi de 14h à 18h. C'est jamais ouvert pendant les vacances scolaires, par contre. Et il y a une participation financière qui est libre, laissée à l'appréciation de chacun. Donc il y a une boîte.
D'accord.
Et on met une pièce
si on veut.
Si on veut, comme on veut.
Bon, bah merci Catherine Cloarec. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Château de Sable.
J'espère qu'il s'écoulera jamais. Je ne suis plus présidente depuis...
Ah, moi j'avais ça sur ma fiche.
Oui, mais depuis un an, ce n'est plus moi, mais voilà, je l'ai été longtemps, donc bon.
Bon, ben, on dira présidente honoraire.
Oui, on peut dire ça, si vous voulez.
Mais merci d'être passé nous voir, et puis merci d'avoir exposé le sens et le champ d'intervention de votre association, même si vous n'êtes plus présidente, vous êtes quand même...
J'y suis toujours impliquée.
Et que voilà, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, et ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, il n'y a aucun jugement,
on
aucune
reste,
contrainte.
Voilà, le temps qu'on veut.
Voilà. Merci en tout cas.
Merci
et
à vous.
Et puis bon courage à vous.
Merci.
Voilà, ça va être, c'est la rentrée scolaire là, donc vous allez avoir du monde un peu là.
Oui, ça revient là, ça revient, recommence.
Hein. Voilà. Allez, on retourne du côté des studios via Ismaël, et puis d'ici quelques instants, on poursuit avec d'autres invités dans le cadre de cette 9e édition de la fête d'un jour ici, quartier Plateau Kennedy.
Le mag sur C2L.
Une fois de plus, de retour ici du côté de la fête d'un jour, 9e édition du Nom, répartie sur le quartier Plateau Kennedy entre deux villes, Montargis et Chalettes. Ça tombe bien, Chalettes, puisqu'on a un représentant de la ville, Frédéric P, directeur du pôle Culture P. Frédéric P, bonjour.
Bonjour.
Alors, il va venir nous parler, bien sûr, des actions de la ville sur la fête d'un jour, car celle-ci coïncide avec la journée de la paix qui a lieu, comme vous le savez, chaque année le 21 septembre. Eh bien, avec lui, on va décliner justement cette question de la culture de paix. Qui n'est pas juste une appellation pour être une appellation, mais qui correspond bien vraiment à un engagement de la ville de Chalettes sur cette thématique de la culture de paix.
Oui, effectivement, hein, depuis 10 ans maintenant, hein, nous avons des services et un pôle de services qui s'appelle le pôle culture de paix, hein, dans les services municipaux. Et nous initions chaque année, le 21 septembre, qui est la journée internationale pour la paix, des actions sous forme de forums, d'expositions, de spectacles, de villages associatifs, voilà. Et cette année, la journée de la paix est tombée en même temps que la fête d'un jour, donc monsieur le maire et les élus ont décidé de marquer le coup sur cette journée de la paix, mais sur la fête du plateau.
Voilà. Alors on va rappeler que la culture de paix, c'est une notion assez nouvelle. Ce n'est pas tant le mot paix, si on peut dire, qui est essentiel, mais plutôt le mot culture, puisque l'ONU l'identifie quelques domaines pour les acteurs au niveau local, national et international. Et selon justement la définition des Nations Unies, eh bien la culture de paix est un ensemble de valeurs, d'attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Alors bien sûr, ici, la ville de Chalettes est même adhérente depuis 1997 dans la culture de paix à travers l'Association des maires pour la paix.
Alors exactement, c'est l'AFCDRP, hein, c'est l'Association française des communes, départements, régions pour la paix, qui est une émanation du réseau international Mayor for Peace, les maires pour la paix.
Alors justement, à l'époque, quand on a effectivement rejoint cette association des maires pour la paix, le maire disait « Nous visons à inscrire la culture de paix dans nos actions quotidiennes, les services publics et nos initiatives en relation avec nos services et les associations de la commune. »
Voilà.
Et depuis cette période-là, et plus précisément depuis une décennie, toute une série d'initiatives sont justement déclinées à travers la culture de paix, mais aussi à travers l'action communale, je dirais même au quotidien.
Oui, au quotidien, au jour le jour. Hein, beaucoup de valeurs tournent autour du vivre ensemble, du faire ensemble. Voilà, c'est ça.
Alors, je me rappelle qu'on avait mis en place, il y a quelques années, « Ma ville est un monde ».
Oui.
Qui était décliné là, sur un aspect international qui correspond bien sûr aux différentes populations qui sont venues ici originairement de différents pays.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et puis, qui s'est décliné dans le cadre d'une fête où là, on a mis en perspective justement toutes les valeurs que revêt la culture de paix.
Tout à fait. Ouais, on a eu 3 éditions hein, de ce qu'on a appelé ce festival « Ma ville est un monde ».
Et puis après, effectivement, dans le cadre de certains temps forts, toute l'année, il y a des initiatives qu'on raccroche dans le cadre de la culture de la paix. Ça a été, par exemple, en 2012, Amitié entre les peuples, présence des délégations turques, palestiniennes et cubaines ici. Il y a eu, effectivement, toute une série d'initiatives, d'expositions, de choses qui mettent en perspective la culture de paix.
Oui, effectivement, y compris au travers de l'action d'un certain nombre, enfin de beaucoup de services municipaux. Hein, je pense aux services enfance, hein, quand ils mettent en avant les droits de l'enfant, le droit au logement. Enfin, c'est tous les droits hein, sont des valeurs de la culture de paix.
Alors justement, vous êtes directeur du pôle culture de paix toute l'année.
Oui.
Vous le disiez vous-même, on met en place des initiatives, des aspects. Qui parfois ne font pas, pour certains, on met en place dans la tête la culture de paix, mais ça rentre dans le cadre de la culture
de
paix.
Tout à fait, c'est toute l'année. Hein. C'est, je pense au service de la vie des quartiers, hein. C'est de la démocratie participative. La démocratie participative, c'est de la culture de paix.
Parce que vivre dans un quartier où les uns et les autres se rassemblent, c'est éviter, par essence, qu'il y ait des conflits entre les uns et les autres, ou une incompréhension de celles et ceux qui vivent sur le même territoire, c'est ça en fait.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Alors cette année, on le disait, cette fête d'un jour coïncide avec le 21 septembre, journée internationale de la paix. Bon, ce soir, il y aura un concert du côté du hangar. Mais j'avais relevé, notamment, Frédéric, que sur une petite affichette que vous avez dans le stand de la ville de Chalettes, qui est juste derrière, eh bien, ce fameux pistolet écrasé, renversé.
Tout à fait.
Bon, j'ai été chercher un peu de quoi on parle. On parle d'une sculpture de l'artiste suédois Carl Fredrik Tarsvald. Alors bien sûr, on ne le connaît pas plus que ça lui, mais on connaît beaucoup son œuvre, puisque ce pistolet cette œuvre a été réalisée en hommage à John Lennon quand il a été assassiné aux États-Unis. Et cette réplique de ce pistolet, je ne sais pas comment on peut dire...
Condamné.
Il est devant le siège de l'ONU. Et puis, en fait, l'idée, à travers cet art, c'était de mettre en perspective la non-violence qui a été son projet fondateur quand, effectivement... John Lennon est mort, donc une œuvre qui représente un revolver au canon noué existe en nombreuses versions, dans une trentaine un peu partout dans le monde, notamment quelques-unes en France.
Tout à fait,
ouais. C'était juste pour expliquer que dans le cadre de cette fête d'un jour et dans le cadre de la célébration de cette journée de la paix, c'était un symbole très fort. Mais dans le cadre de cette journée, bien sûr, il y a aussi d'autres initiatives prises.
Oui, dans le cadre de cette journée. Donc déjà au niveau du stand de la ville de Chalais-sur-Loing, vous avez une très belle exposition qui s'intitule « Pour une culture de paix », qui explique un peu ce qu'est une culture de paix et toutes ces actions qui peuvent en décliner. Nous invitons aussi très largement à un grand rassemblement et une marche pour la paix, puisque ça c'est... C'est dans la continuité des actions nationales qui sont lancées par le mouvement de la paix. Je dirais que la marche pour la paix et la planète, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. Avec une marche qui partira du stand de la ville à 15h, avec un petit circuit dans le quartier du quartier du Kennedy Château-Blanc, et pour accueillir au retour de la marche ceux qui ont participé, et bien d'autres d'ailleurs, le conseil municipal des enfants, des représentants du conseil municipal des enfants seront présents au stand et serviront un petit rafraîchissement au travers d'un cocktail de la paix qui s'appelle le Fraternity. Voilà.
Ah, le Fraternity. Alors voilà, là par exemple, on est vraiment dans la déclinaison de ce que peut être la culture de paix à travers les nouvelles générations, puisqu'on parle là du conseil municipal des enfants, qui existe un peu partout sur le territoire national, mais il y en a un au moins, en tout cas à Chalette, où là, effectivement, à travers différentes actions dans l'année, on essaye de leur montrer en quoi il faut faire la paix et pas la guerre dans ce monde dans lequel on est.
Tout à fait.
Et puis, je rappelle que la définition de culture de paix, elle reprise donc par l'ONU, définit 8 domaines, 8 champs d'intervention,
dont l'éducation.
Voilà, qu'on retrouve dans le cadre de votre mission au sein de la ville de Chalette, pôle de culture de paix.
Pôle du cœur de paix, voilà.
Voilà, et puis ce soir, un concert gratuit.
Oui, au hangar, Calune, à 20h30 au hangar, où j'invite tout le monde à venir écouter ce chanteur français, très engagé d'ailleurs, sur des questions d'environnement aussi.
Ah bah ça tombe bien, puisqu'hier, les jeunes, ils ont manifesté sur cette thématique-là. J'ai cru comprendre que les jeunes se sentaient concernés par le fait de l'avenir de notre planète bleue, qui devient de moins en moins bleue d'ailleurs.
Oui.
Voilà, donc ça c'est ce soir à partir de 20h30, du côté du hangar, c'est tout public, chanson française. C'est gratuit, je crois.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est gratuit.
Voilà. La marche festive pour la paix, c'est à quelle heure ?
Alors, le rassemblement est à 14h45 devant le stand de la ville, pour un départ 15h.
Voilà, et le cocktail préparé par les petits du conseil municipal des enfants à l'arrivée de...
sera servi aux marcheurs et à toute personne qui souhaite participer à cette action du conseil municipal des enfants.
Voilà, puis Fred, on rappelle que dans le stand de la ville de Chalette, qui est juste en face le grand bâtiment public là, il y a une exposition, celle du mouvement de la paix sur...
Une très belle exposition qui s'intitule « Pour une culture de paix ».
Allez faire un tour et puis comme ça on permettra de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de la paix. C'est pas seulement la paix avec son voisin, mais c'est la paix...
Et avec diverses déclinaisons tout au long de l'année. Et j'appelle ce grand rassemblement que nous avons depuis déjà plusieurs années sur la ville de Chalette, qui est la fête de la fraternité, qui aura lieu le samedi 26 octobre. Voilà.
Là aussi, on est dans la déclinaison de la culture de paix.
Voilà, on a de la documentation, les gens peuvent venir en discuter avec nous au niveau du stand.
Eh ben merci Frédéric Pé, directeur du pôle culture de paix à la ville de Chalette. Et puis bonne continuation et puis faites en sorte que tout se passe en paix quand même.
Il n'y a pas de souci. Merci.
Ça marche. Allez, on retrouve une fois de plus Ismaël et puis on devrait terminer avec un dernier invité ici du côté de la 9e édition de la fête d'un jour. Je vous rappelle, situé entre le quartier Plateau et Kennedy, situé sur à cheval sur les deux villes, Chalette et Montargis. Venez-y, c'est jusqu'à 17h, l'occasion de découvrir toute une série d'associations, de stands, de ce qu'est aussi cette maison de service public au sein de ce quartier, et puis eh bien de faire la fête, et puis d'être dans un esprit bien sûr festif, et aussi en paix. Quoi.
Et de paix.
Et voilà. De paix.
Le MAG sur ses deux ailes.
De retour effectivement ici du côté du quartier Kennedy Plateau, dans le cadre bien sûr de cette fête d'un jour qui se déroule depuis ce matin 10h, bien un peu avant, mais jusqu'à 17h ce soir. On continue avec les différents protagonistes de ce quartier, d'essayer de mettre en perspective justement la réalité de ce que vivent et ce que sont les gens ici sur ce territoire. Ça tombe bien puisque notre dernier invité est Olivier Pasquier, il est directeur général de l'OGM Loiret. Olivier Pasquier, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être à nos côtés. Alors vous êtes un bailleur social fortement impliqué dans le développement social urbain de ce quartier du Plateau et voire même au-delà de ce quartier du Plateau. Mais on va se concentrer bien sûr sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir cette fête d'un jour sur ce quartier du Plateau. Peut-être historiquement, en deux, trois mots, un peu la carte de visite d'identité de l'OGM Loiret.
Alors bailleur départemental, effectivement, on est présent dans tout le Loiret, sur 150 communes. Montargis et le Montargois est aussi un endroit qui compte pour nous, puisqu'on a à peu près 2500 logements dans tout le Montargois. C'est un lieu où je viens souvent, parce qu'on a beaucoup de projets ici dans le Montargois, et spécifiquement aussi sur les communes de l'AME.
Alors, je vous disais hors antenne, bien sûr, pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois, bon, ils ne voyaient pas trop les mutations. Or, c'est un quartier qui, notamment en 2007, a connu des transformations importantes dans le cadre d'un projet en rue. Vous, en tant que bailleur social, vous me disiez, bon, bien sûr, vous avez été impliqué dans le cadre du projet, même si c'est des élus qui, au départ, décident et c'est des fonds d'État. Comment l'OGM Loiret s'est positionné par rapport à ce grand bouleversement, ces grandes mutations dans le cadre de ce quartier?
Alors, on se positionne toujours en partenaire. C'est vrai que sur le quartier, il y a, on peut dire, trois institutions importantes au départ. C'est les bailleurs, donc Valoir, anciennement Amoval, Valogis, qui a la plupart des logements, nous-mêmes, bailleurs sociaux départementaux, et puis on va dire les collectivités avec les villes, puisqu'on est un endroit un peu particulier où on est au carrefour de trois villes. Et à un moment donné, eh bien, on a tous des projets communs, et l'ANRU a été un élément, on va dire, catalyseur, faciliteur de nos projets. Donc parfois, il a permis aussi de les améliorer, de les accélérer, sachant que pour l'autre bailleur, hein, qui était à Moval à l'époque, il y avait une configuration de projet très, très forte, avec, et on le voit aujourd'hui, il y a des traces dans le quartier, avec beaucoup de renouvellement, beaucoup de réhabilitation, beaucoup de démolition. Et c'est vrai que pour le Jeune Loiret, on va dire que c'était à plus petite échelle, mais à l'échelle de notre organisme, ça compte aussi. Donc c'est pour ça qu'on a participé pleinement à ce projet, avec tous les partenariats qu'on a pu tisser, et ça s'est très très bien passé.
Alors je dirais, quand on est un bailleur social comme le vôtre, quelle que soit la taille, on est confronté à des nouvelles problématiques en termes d'habitat, en termes d'urbanisme, puisqu'aujourd'hui on a introduit plus qu'avant cette question d'urbanisme. Avant on construisait des immeubles et puis on se souciait pas tellement de ce qu'il y avait en bas à côté et puis ce qui peut être les débouchés. Ça, c'est des choses qui en permanence évoluent dans le métier dans lequel vous êtes.
C'est vrai que les besoins évoluent, les besoins des habitants, donc sur leur logement, il y a des attentes de confort qui sont assez fortes. Concrètement, on a des logements anciens ici, hein, ça se voit. Donc ce qu'ont pu faire les bailleurs, c'est améliorer le quotidien des gens, hein, tout simplement en faisant des travaux pour qu'un logement soit bien équipé au niveau électrique, au niveau plomberie, en termes d'accessibilité aussi. C'est aussi important aujourd'hui avec le vieillissement des populations. Et puis quand on crée des logements, eh bien effectivement être dans la norme du moment, avec les aspirations évidentes en termes de développement durable, en termes d'économie d'énergie, aussi en termes de tranquillité. C'est un aspect important qui a été travaillé dans ce quartier, avec ce qu'on appelle un terme qui s'appelle la résidentialisation. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, je crois.
C'est un concept assez contemporain, oui.
Oui, c'est assez contemporain, donc on parle de résidentialisation. C'est en fait pour transformer des logements qui au départ étaient des logements avec une approche très sociale, c'est-à-dire qu'on avait construit généralement des beaux logements, plutôt au-dessus de ce qui se faisait à l'époque en termes de normes, de surface, de confort. Mais c'est vrai qu'on avait un peu délaissé les parties extérieures. Donc on a essayé de redonner ce qu'on appelle un caractère résidentiel à ces immeubles, en les entourant, en ayant des espaces verts attrayants, en apportant de la sécurité, des fermetures. Et c'est vrai que quand on parcourt le quartier aujourd'hui, on voit que cette étape de résidentialisation a beaucoup changé de choses. Moi, je me souviens du quartier il y a 25 ans, tout était ouvert. Donc aujourd'hui, on a effectivement des îlots, des immeubles qui sont entourés, aussi une qualité d'espace vert, vous avez des haies, vous avez du fleurissement.
Il y a un environnement, on prend en compte l'environnement global.
C'est quand même sympa sur un quartier qui est extérieur au centre-ville, qu'on appelle le plateau, de retrouver tout ça donc, et effectivement d'avoir quelque chose qui est tout à fait à échelle humaine et où les espaces verts sont valorisés.
Alors c'est important ce que vous dites là parce que très souvent on fonctionne dans un pays comme le nôtre où les stéréotypes vont bon train. Dès qu'on parle de HLM, dès qu'on parle de bailleur social, on a tout de suite une vision parfois un peu réductrice de ce qu'on peut offrir en termes de qualité de logement, vous le disiez vous-même. Aujourd'hui on s'aperçoit par exemple qu'on n'est plus sur les conceptions des années 50 ou 70 où aujourd'hui on essaie de privilégier et parfois même on peut passer devant un immeuble dit HLM où on pense que c'est de l'accession à la propriété et c'est pas du tout HLM. C'est ça aussi qui fait qu'on se renouvelle constamment quand on est un bailleur social, de répondre à des usages, des exigences un peu nouvelles.
Alors nous, effectivement, il y a des évolutions dans le domaine de la construction, il y a des évolutions aussi dans les aspirations, on va dire, individuelles. Aujourd'hui, on est dans une société qui a besoin de vivre ensemble, mais en même temps avec des aspirations très individualistes. Donc il faut arriver à concilier tout ça. C'est vrai que depuis longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, nos logements sont au-dessus de ce qu'on appelle les normes. Généralement, on a fait du développement durable avant les autres, on a fait de la certification de nos logements avant les autres, parce que il y avait une aspiration, c'est que quand un bailleur social construit des logements, c'est pour très longtemps. Nous, on n'a pas un taux de retour sur investissement à 15 ans, comme peut l'avoir un promoteur privé ou quelqu'un qui investit dans la pierre. Nos temps de retour, ils sont sur des années assez importantes. On est sur 40, 50 ans. Maintenant, on emprunte même pour acheter du foncier sur 60 ans. Donc, ce qui veut dire que quand on construit, on fait attention. On a une logique d'évolution. Quand on réhabilite aussi, on regarde ça. C'est pour ça aussi que parfois, on décide de ne plus réhabiliter quand on voit que de toute manière l'investissement qu'on va faire n'apportera pas beaucoup sur les attentes des habitants. Donc là on préfère effectivement trouver des solutions pour démolir soit totalement soit partiellement certains immeubles.
Alors justement vous parlez de réhabilitation, c'est un domaine assez prégnant en France. Je sors du champ de la problématique environnementale ou l'aspect thermique etc etc. Quand on est sur un quartier comme celui-ci, vous le disiez vous-même, il y a effectivement un bâti qui est assez ancien. La réhabilitation, c'est une part importante aussi de l'activité d'un bailleur social. Comment elle est prise en compte aujourd'hui, cette question-là ? Parce qu'on ne veut pas tout détruire et tout reconstruire.
Oui, alors effectivement, elle fait partie du cycle de vie d'un bâtiment. Un bâtiment est composé de différents éléments techniques. Il a une couverture, des fenêtres, des portes. Donc, généralement, les bailleurs sont organisés autour de ça. Ils ont un plan de renouvellement des équipements sur une vision moyen terme, long terme. Donc, c'est une chose. Les renouvellements des équipements doivent être aussi synchronisés parce que vous ne changez pas normalement les éléments, par exemple type chaudière, sans regarder ce qui se passe du côté des ventilations. Donc il y a quand même toute une ingénierie autour de ça. C'est vrai aussi que le patrimoine, on va dire, de logements en France, comme ailleurs, nécessite énormément d'adaptation si on veut faire face aux défis de demain. Vous avez vu cet été, il faisait 50 degrés dehors. Bon, j'exagère un peu, mais c'est peut-être la température qu'on aura dans 10 ans. Comment on résout ces problèmes-là ? On a effectivement des personnes aussi qui disposent pas de beaucoup d'argent pour chauffer leur logement en hiver. Donc on a essayé de faire progresser les logements de ce côté-là, mais à un moment donné, il y a des incontournables, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Aujourd'hui, on ne sait pas réfrigérer un bâtiment. On s'est limité quelques éléments. Donc c'est un gros défi. Hein. Et c'est vrai que l'adaptation au changement climatique, l'adaptation au vieillissement, l'adaptation au fait aussi qu'à un moment donné, on a beaucoup construit dans les années 50-60 des logements pour des grandes familles. Et sur ce quartier notamment, je pense qu'il y a une majorité de logements familiaux. Et aujourd'hui, on a besoin énormément de petits logements. Type 2,
oui, la structure de la famille essentiellement.
Donc, comment faire pour effectivement concilier tout ça? Donc, à chaque fois, on met une pierre à l'édifice, mais on aimerait aller plus vite. Mais il y a aussi des réalités financières qui nous rappellent qu'on peut pas tout changer. Donc, effectivement, faut évoluer avec la société.
Quand on est un bailleur social comme vous, on doit être au fait, bien sûr. Il y a l'Union sociale de l'habitat que vous devez connaître comme organisme national. Bon, j'ai pu, en tant que journaliste, y aller de temps en temps. À chaque fois, on entend dire, il y a 1 million de logements, de gens qui sont en attente de logement. Quand on est un bailleur social, on n'est pas frustré de cette situation-là, de voir une telle demande et une offre qui est parfois assez réduite.
Alors, c'est effectivement, un économiste parle toujours d'ajustement entre l'offre et la demande.
Oui.
Quand on parle de demande de logement et d'offre de logement, la problématique, c'est qu'elle est complètement différente selon les situations qu'on regarde. Déjà, les situations géographiques, il est vrai qu'en région parisienne, quand il y a un logement qui se libère, il y a 20 familles qui peuvent y prétendre. Ce qui pose effectivement des problématiques de critères pour attribuer un logement. Dans d'autres territoires, et il y en a ici pas très loin, quand on est plus en zone rurale, eh bien, quand il y a un logement qui se libère, des fois, il n'y a pas de demande. Personne ne veut y aller.
Oui, il y a une disparité, une zone tendue.
Et puis, c'est normal. Sur le territoire de l'agglomération montargoise, eh bien, on a aussi plein de gens qui espéreraient accéder à un pavillon, par exemple. Donc, là aussi, il peut y avoir une grande tension par rapport à ça, moins sur des logements collectifs et on va dire ça va aller selon l'emplacement dans le quartier, ça va aller selon le type de logement. Donc effectivement, c'est pas mécanique cet ajustement-là. Une personne, par exemple, à mobilité réduite peut attendre très longtemps un logement si effectivement elle le souhaite dans tel quartier, tel endroit, avec telle facilité. Par contre, une famille, un ménage, on va dire, qui n'a pas d'exigence particulière, ça peut aller assez vite. C'est assez variable. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandeurs. On avait une réunion d'ailleurs cette semaine entre collègues bailleurs en région. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de demandeurs, voire d'attributeurs, qui ne rentrent jamais dans leur logement, ils n'en veulent pas.
Mmh.
Donc, parce qu'ils en ont trouvé un en même temps, ou parce qu'ils sont déjà dans un logement social, et puis après coup, ils réfléchissent. C'est vrai qu'un déménagement, c'est compliqué, un déménagement, c'est coûteux. Donc, il y a une demande, ça, c'est certain. Mais en même temps, elle est quand même assez modérée. Ce qui fait que, heureusement, la plupart des loueurs éteints, parce que moi, je prends l'échelle départementale, ont aujourd'hui un logement.
Oui. Bon, après, c'est vrai qu'on a toujours une vision globale. On sort un chiffre national et de là, on tire effectivement toute une série d'analyses qui parfois sont un peu faussées parce qu'effectivement, d'un territoire à un autre, les disparités sont assez grandes. Il y a un autre aspect aussi qui est assez redondant, fort peut-être, c'est la question du taux d'effort des familles.
Oui,
c'est une question quand même qui est assez prégnante. Alors, je comprends bien que quand on est bailleur social, on n'est pas un philanthrope. Hein. Il faut bien effectivement assurer la structure. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a aujourd'hui... Je sors de notre débat la question de Paris. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que parfois, on monte à 35-40% du taux d'effort, c'est-à-dire de la part de notre salaire qui est consacrée au logement. Est-ce que ça, c'est aussi des préoccupations que vous pouvez avoir, même si vous n'avez très certainement pas la maîtrise de tout?
Oui, alors c'est effectivement, forcément, c'est notamment le rôle de nos commissions logement. Quand un demandeur, à un moment donné, a fait son dossier, qu'on a trouvé un logement qui pourra lui convenir, bien sûr, on a étudié sa situation, regardé ses ressources, ses dépenses autres, parce que dans le budget du ménage, il n'y a pas que le logement. Des fois, il y a des engagements de crédit, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. L'éloignement d'un travail peut générer aussi des dépenses complémentaires. Donc, on va regarder tout ça et ce qui peut arriver, effectivement, c'est que ce que vous avez expliqué, le taux d'effort soit dépasse les 30%, qui est à peu près un chiffre qui est regardé dans le secteur immobilier. Et ça, c'est vraiment un cas de conscience pour nos administrateurs qui sont en commission logement. Ce qu'on veut, c'est éviter que les gens soient en difficulté. Donc, à un moment donné, se retrouvent en impayé. Donc parfois, on prend le risque, mais des risques assurés. On a beaucoup de locataires qui ont ce qu'on appelle des garanties financières, qui sont de plus en plus rares aujourd'hui, puisque Action Logement a stoppé un système qui s'appelait le LocaPass, qui était quand même un élément intéressant pour sécuriser l'accession à un logement. C'est vrai qu'on regarde tout ça, c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que le niveau de charge qui va avec le loyer reste, on va dire, modeste. Donc nos contrats d'entretien, par exemple, sont souvent reconsultés de manière à avoir le meilleur rapport qualité-prix. On essaie d'expliquer à nos locataires que, certes, tout n'est pas parfait, mais que pour le niveau de qualité qui est rendu, le prix correspond bien et que si on voulait... l'augmenter, ça serait pas possible. On a le cas notamment sur les postes de ménage, quand vous faites du ménage dans les parties communes. Donc on demande aux gens d'être vigilants, respectueux du travail fait, parce que si vous devez repasser derrière, forcément c'est du travail en plus.
Comme briser des vitres à l'entrée, etc.
Il y a ce qu'on voit sur la facture, il y a ce qu'on voit pas, mais à un moment donné, quand un organisme dépense, c'est de l'argent en moins pour d'autres projets, pour les locataires, et c'est bien dommage. Donc c'est pour ça que il y a une économie d'ensemble, il y a une solidarité d'ensemble qui fait que les bailleurs, à un moment donné, doivent prendre un certain nombre de dispositions, être très dynamiques sur la gestion pour faire en sorte que ce taux d'effort reste admissible. C'est vrai que les bailleurs sociaux ont été très attentifs à l'évolution de l'APL. Ça aussi, ça contribue au taux d'effort. Le fait d'avoir baissé les APL, ça a été quand même très mal vécu chez les bailleurs sociaux, puisque cette baisse d'APL a été compensée par les loyers. Et quand on fait ça, mécaniquement, on retire des ressources aux organismes.
Effectivement. Sur le chapitre, c'est devenu un mot utilisé à la mode, sur la mixité dans les quartiers, notamment dans le secteur HLM. Est-ce que là aussi on est, je ne sais pas comment on peut dire, est-ce qu'on, quand on est bailleur, on essaie aussi de veiller à ce que, je sais que c'est aussi la volonté parfois des élus, mais est-ce qu'on essaye, quand on est bailleur, c'est compliqué de veiller à cette question de la mixité?
Alors la mixité, déjà, c'est une définition un peu floue.
Et oui.
On parle de laquelle? Alors il y a des choses qui sont assez simples, c'est la mixité par exemple intergénérationnelle. Bon, celle-ci, c'est facile, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a des personnes qui sont plus âgées que d'autres. Et,
Mais très souvent, on la réduit au salaire, au niveau social des
Et effectivement, après, c'est une mixité de ressources, ça c'est quantifiable, on a le droit de stocker ça dans nos fichiers informatiques. Et puis, il y a d'autres mixités, effectivement, la mixité sociale, sociologique, les habitudes des uns des autres, leurs préférences culturelles, voire cultuelles. Et ça, ce sont des domaines qui sont aujourd'hui sur lesquels on peut très peu investiguer. On n'en a pas le droit. Et puis, à un moment donné, les habitants aussi, parfois, ne la veulent pas. Donc notre cheminement, il est là, il est effectivement pour essayer de le faire, de faire cheminer toutes ces idées-là. C'est assez facile à faire, assez facile, l'exercice n'est jamais facile, mais on va dire que c'est plus facile à faire quand on loue des logements neufs. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez à un moment donné une commission d'attribution des logements qui peut... avoir une réflexion là-dessus et trouver une harmonie dans la population. Après, effectivement, à l'échelle d'un quartier, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez effectivement des habitudes sociologiques, vous avez des gens qui vivent par affinité aussi, ça se respecte. Donc le bailleur social, il est là pour gérer des grands équilibres. Il ne peut pas assurer un équilibre, on va dire, à la cage d'escalier. Des fois, c'est un peu compliqué. On gère des situations, on s'adapte, et puis on travaille aussi avec les habitants pour que cette mixité aussi vive entre eux. Je pense que c'est important.
Alors, je vous dis ça pourquoi ? Parce que c'est pour introduire un autre petit aspect, Olivier Pasquet, c'est... que le rôle et le travail d'un bailleur, c'est pas seulement de construire et d'avoir un immeuble. C'est aussi de gérer, entre guillemets, il y a une part d'humain qui est importante, à savoir, au bout du bout, les locataires. Cette relation que vous avez aussi avec les locataires au quotidien, c'est aussi une dimension importante de ce que peut être un bailleur social.
Moi, dans mon métier de directeur général, je gère de l'humain. L'aspect construction, c'est une partie de mon temps de travail, évidemment, pour aller voir des élus, pour concevoir des projets, pour avoir des contacts avec les architectes. Mais on construit que 1% de notre patrimoine tous les ans. Donc le Gemme Loiret, c'est 15 000 logements. On met en location entre 100 et 150 logements par an. Donc quelque part, pour moi, pour les équipes, c'est marginal. Tout le reste, c'est les acquis, c'est le bâti, et puis effectivement, ce sont les gens. Donc ça occupe énormément de monde à Le Gemme Loiret. C'est notre personnel de proximité, c'est nos agences, c'est nos conseillères sociales, c'est les personnes qui aident au recouvrement des loyers, c'est effectivement beaucoup d'intervenants, beaucoup de partenariats aussi avec les collectivités, avec les maires. C'est le fonctionnement de nos commissions logement. C'est beaucoup de choses.
La relation aussi avec les organismes de locataires, etc. Ça aussi,
oui, c'est... alors effectivement, elles sont dans nos conseils d'administration. Il y a un conseil de concertation locative qui se réunit 3 fois par an. On a effectivement l'avis dans les groupes de logement. Et puis nos administrateurs locataires, j'en ai parlé plusieurs fois, qui sont présents dans nos commissions d'attribution de logements. C'est là vraiment, ils ont un rôle très très important.
Oui, parce que c'est quand même l'interface entre ce que est le bailleur social à travers vous et puis à travers celles et ceux qui vivent dans l'immeuble et qui sont les locataires.
Tout à fait. Et puis eux-mêmes sont locataires. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont locataires. Donc ils voient les différentes problématiques, ils connaissent aussi les problématiques de l'organisme. Oui, il y a des contraintes financières, on en a parlé tout à l'heure. Oui, il y a des partenariats nécessaires avec les élus, donc ils ont aussi cette vision des choses qui, à un moment donné, cette vision leur permet de faire des choix. Et les meilleurs choix possibles.
Meilleur choix possible. Bon, dernière petite question pour ce qui concerne ce secteur. Je disais, il y a eu de très gros projets en 2007 à travers les projets en rue. Il y a la question de la réhabilitation qui se pose, puisque vous le disiez, le bâti, quels vont être, par exemple, pour la prochaine décennie, puisque là, on ne parle pas en termes d'années, une année ou deux années, on se projette même parfois beaucoup plus loin. Il va y avoir d'autres projets structurants, ce qui concerne votre organisme et ce quartier.
Oui, on voit des choses. Donc c'est vrai que nous on a des choses qui sont relativement récentes dans le quartier. Donc on va s'attacher à les préserver. On a construit des logements sur Collerette, sur le Million. Effectivement, ce sont des logements. J'y passais encore la semaine dernière, qui m'ont l'air de bien fonctionner. Donc ça fait partie de notre travail en suivi de gestion. Il nous reste des travaux de résidentialisation à faire du côté des immeubles qui portent le nom des prénoms Jacqueline, etc. Donc on a un peu de travail de ce côté-là encore dans les logements, dans les parties communes. Donc on s'attache à toujours améliorer les choses. Et puis ça sera plus lointain. Il y a ce qu'on appelle le bloc Million, qui est un peu maintenant l'endroit ancien du quartier, qui n'était pas dans le périmètre en rue. Donc, sur, on va dire, du moyen terme, il y aura des choses à faire.
Bon, en tout cas, merci Olivier Pasquet. Je rappelle que vous êtes directeur général de Le Gemme Loiret. Merci d'être passé nous voir et de nous avoir amené ces éclairages qui parfois fait que on peut avoir d'autres idées de ce que peut être un bailleur social à partir du moment où on développe un peu les missions et puis comment on interagit ou réagit en tant que bailleur social. Merci en tout cas d'être passé nous voir.
Merci, ça me fait plaisir et je l'ai toujours dit, j'étais mercredi en réunion publique ici avec le maire de Chalette. C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir dans le Montargois, c'est un territoire que j'aime bien.
Bon, en tout cas, en ce qui concerne Radio C2L, la porte est ouverte. Quand il y a des choses que vous voulez mettre en perspective ou des éclairages, eh bien, vous êtes le bienvenu. Merci en tout cas.
Merci, à bientôt.
Merci. Ben voilà, on arrive au terme de notre émission du jour. Merci à Ismaël du côté de la réalisation en studio. Merci à Enrique ici du côté de ce direct depuis ce lieu, cette maison. Merci à Émilie et puis merci aussi à Déborah pour l'organisation. On se retrouve la semaine prochaine, même heure mais pas même endroit puisqu'on se retrouvera nos beaux studios avec un beau parquet, hein, c'est ça ?
C'est bien ça.
C'est ça. Bon allez, bon week-end à toutes et à tous et n'oubliez pas, ici c'est jusqu'à 17h du côté de la fête d'un jour, c'est entre le quartier... Non, c'est entre la ville de Châtelet et la ville de Montargis. J'ai bien noté ce qu'on m'a dit tout à l'heure, hein, qu'on peut traverser la rue et se retrouver dans une autre ville, il n'y a pas de souci. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine et puis n'hésitez pas à venir faire un tour ici du côté de la fête d'un jour au plateau Kennedy. Allez, bon week-end à toutes et à tous. Ciao.